18h, 20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier 18-20 de la semaine et je me réjouis qu'aujourd'hui, ce soit la journée mondiale du rire. Sans rire, au menu de ce dimanche, du rire, enfin on va essayer, mais surtout 2 heures d'information avec du sport, les médias, avec Mac Lesguy, le monsieur Science de M6, qui va nous parler de régime et des dossiers. Question, comment être à la fois écolo, agriculteur et sur la liste LREM aux élections européennes. Réponse avec Jérémy De Serle. Il est éleveur, ex-président du syndicat des jeunes agriculteurs, dont il a démissionné pour devenir numéro 4 sur la liste de Nathalie Loiseau. Il a longtemps défendu l'utilisation du glyphosate, que rejette justement Pascal Canfin, le numéro 2 de la liste. Explication à ce micro. Le comédien Océan, ensuite, il y a quelques années, on le connaissait sous le nom d'Océane Rosemary, auteur notamment du spectacle La Lesbienne Invisible. Il lance aujourd'hui une web-série documentaire qui montre sa transition de femme vers homme, 10 épisodes sensibles et drôles, qui ne cachent pas grand-chose. Il sera avec nous dans ce studio. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. Et n'oubliez pas, vous pouvez réagir en partageant un petit commentaire. Réagissez à l'actu avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. 18h, bonne fin de week-end à tous. Le journal, François Geffrier, Philippe Vandel.
Bonsoir François.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Un froid polaire sur toute la France, il a gelé la nuit dernière et neigé aujourd'hui. Reportage en Isère dans un instant. Les deux Français disparus au Bénin ont-ils été enlevés? Le corps de leur guide a été retrouvé. Dans ce journal également, Marine Le Pen en meeting à Bruxelles. Reportage à suivre. Et puis, où peut-on trouver de l'essence pas chère sur l'autoroute? On a la réponse, on vous la donnera à la fin du journal.
Europe 1.
C'est ce qu'on appelle un froid de canard.
Oui, les plus sages diront que c'est normal puisque les seins de glace ne sont pas encore passés. Attention à vos géraniums. Les autres auront peut-être rallumé le chauffage pour 48 heures car oui, il fait froid. Nous avions ce matin 1 degré à Brest, moins 1 dans la ville de Troyes. Tandis qu'en altitude, on a pu ressortir les luges. Rémi Pierre, vous êtes du côté du massif des Bauges. Vous nous confirmez qu'il a neigé?
Oui, l'illusion hivernale est parfaite, un paysage immaculé, quelques flocons qui volaient encore cet après-midi après les fortes chutes de neige de cette nuit et un vent glacial. Ici à la station du Revard, à seulement 1400 mètres d'altitude, eh bien, ce retour de l'hiver arrive même à surprendre Barbara qui tient une boutique de souvenirs.
Pour moi qui suis là depuis 15 ans à peu près, c'est vraiment la première fois où on a les quantités de neige comme ça en début mai et puis un froid comme ça quoi. Et on est en ressenti à moins 10, donc c'est vrai que c'est exceptionnel.
Une surprise partagée par Jérémy et Lorraine, deux amis lyonnais.
J'ai l'habitude de venir ici et je sais qu'il y a de la neige en avril, en mars, mais pas en mai. Ou non, ça s'en est pas, quoi.
Au mois de janvier, quoi.
Et c'est donc emmitouflé dans sa parka, comme en plein hiver, que Sandrine, une Parisienne, profite de ces conditions inhabituelles.
Ouais, c'est pas la première fois que j'ai en mois de mai, je suis déjà venue plusieurs années d'affilée. Les gants, les bonnets, trois polaires, non, c'est vraiment la première fois.
En revanche, Sophie, elle n'est pas vraiment équipée pour.
En fait, c'était un week-end balnéo à Aix, donc on est venu avec des tongs, un maillot de bain. Heureusement que j'ai pris ma petite laine.
Un anorak quand même.
Oui, mais j'ai pas de chaussettes, j'ai pas de gants, il fait hyper froid.
Un hiver tardif qui permet en tout cas de prendre quelques belles photos insolites ce dimanche 5 mai.
Rémi Pierre pour Europe 1 dans le massif des Bauges au-dessus de Chambéry. Cette météo hivernale comporte aussi pas mal de vent. On a enregistré du Mistral jusqu'à 150 km/h dans le Luberon. Dans le Var, 110 pompiers et 2 canadaires sont mobilisés contre un incendie dans le secteur forestier du massif du Faron. En Corse, une touriste allemande est morte, emportée par les vagues sur une plage de Porto. Elle avait 61 ans. Là aussi, c'est le vent qui est en cause. Emma est serveuse dans un bar sur cette plage.
Elle était partie faire une promenade sur le bord. En fait, il y a un chemin, un sentier qui se fait sur le bord de la mer. Donc, ils l'ont emprunté tous les deux. Et elle s'est fait surprendre par les vagues parce qu'il y avait 3 mètres de houle dans le golfe. Donc, la dame a été emportée par les vagues. Et après, le monsieur a réussi à aller un peu plus en hauteur pour éviter les vagues. Elles étaient très fortes. Elles passaient directement au-dessus de la jetée. Nous, les bateaux ne sortaient pas aujourd'hui. La mer, elle est dangereuse. Hein. Ici, c'est signalé. Hein. C'est signalé qu'en période de mer mauvaise, il ne faut pas emprunter ce chemin. Malheureusement, un peu d'imprudence et voilà.
Emma, jointe pour Europe 1 par Théo Manval.
Et c'est toujours l'incertitude sur le sort des deux touristes français disparus au Bénin.
Oui, ils se trouvaient dans le parc national de la Pendjari. On y a retrouvé un cadavre et l'identité de celui-ci semble se préciser, Théo Manval.
Eh oui, selon l'organisation qui gère le parc, il s'agit bien du corps du guide des deux touristes français disparus mercredi. Le pantalon, les vêtements qui avaient été retrouvés sur la dépouille hier soir ont été présentés ce matin à la famille de cet homme pour confirmer qu'ils appartenaient bien à leur fils. Et la réponse est donc oui, explique Jean-Marie Angelo Amoussou, l'un des responsables du parc de la Pendjari.
Après les analyses du médecin légiste, à 99%, tout le monde savait que c'était le guide.
mais il fallait quand même une confirmation de la famille qui devait pouvoir quand même reconnaître que la tenue était celle ou non du SIAC. Maintenant que c'est fait, il n'y a pas de doute. C'est maintenant confirmé que c'est le guide qui a été tué.
Le gouvernement du Bénin doit publier un communiqué officiel attendu dans les minutes qui viennent. Cette possible mort du guide retrouvé non loin, semble-t-il, du véhicule dans lequel les deux touristes français circulaient, tend à accréditer la thèse d'un possible enlèvement par un groupe armé. Pour l'instant, le Quai d'Orsay ne réagit pas à ce sujet. Je rappelle que la zone de ce parc naturel située à la frontière avec le Burkina Faso est formellement déconseillée depuis plusieurs mois par le ministère des Affaires étrangères. En raison de la présence de groupes djihadistes actifs dans la région et susceptibles de s'en prendre aux ressortissants occidentaux.
Les précisions de Théo Manval pour Europe 1. Ce dernier bilan à l'instant au Proche-Orient, 11 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans la riposte d'Israël au tir de roquettes depuis la bande de Gaza. 3 Israéliens ont été tués dans ces tirs selon le journal Haaretz.
Les élections européennes, c'est dans 3 semaines tout juste, avec un grand choix pour les électeurs.
Oui, 33 listes ont été déposées. Marine Le Pen était en campagne à Bruxelles aujourd'hui, venue pour soutenir ses alliés de l'extrême droite flamande et pour tendre la main au Hongrois Viktor Orban. Pour Europe 1, Isabelle Horry est à Bruxelles.
Marine Le Pen est comme chez elle dans les locaux du Vlaams Belang. Le parti de l'extrême droite flamande est l'un des plus anciens alliés du Rassemblement National. Et l'admiration s'entend dans la bouche de son jeune président, Tom van Grieken.
J'ai donc, et ça c'est vraiment de ma cœur, le grand plaisir et le privilège de donner la parole à notre amie et alliée Marine Le Pen, qui je respecte énormément.
Les deux partis siègent ensemble à Strasbourg avec la Ligue de l'Italien Matteo Salvini. Jusqu'ici, ils avaient 37 sièges. Ils espèrent obtenir largement plus après les élections européennes dans 3 semaines. Pour cela, il faut nouer de nouvelles alliances, y compris avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban.
Tous ceux qui aujourd'hui se disent, en fait, ils avaient raison et nous allons les rejoindre, ils sont la bienvenue. Nous leur tendons la main. Et si M. Orban vient, tant mieux. Mais même s'il ne vient pas, le supergroupe, il existera. Avec ou sans lui.
Viktor Orban s'est affiché avec Matteo Salvini cette semaine, mais il ne veut pas se rapprocher de Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement National a-t-elle peur que cela sème la discorde entre les alliés ? Non, balaye-t-elle. Matteo Salvini est un homme droit et loyal. Il va respecter ses engagements. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1.
Et pour les Européennes, le Rassemblement National de Marine Le Pen est au coude à coude dans les intentions de vote avec La République En Marche. Écoutez ce qu'en disait le patron du parti présidentiel, Stanislas Guérini, qui était ce matin l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
Je n'ai pas oublié qu'aux dernières élections européennes, c'est bien le Front National qui était en tête et que ce risque-là, c'est-à-dire le risque de voir la France dans les institutions européennes affaiblie, est un risque qui existe. Moi, la seule question que je me pose, c'est chaque jour de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour me battre, faire en sorte que nos concitoyens aillent voter aux élections européennes et que, contrairement à la dernière élection, nous soyons en tête. Nous sommes la liste qui peut battre aujourd'hui le Rassemblement National. N'ayons pas d'ambiguïté sur ce sujet-là. Il faudra tout faire pour être devant.
Stanislas Guérini ce matin sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal. Les ministres de l'Environnement du G7 sont à Metz et les militants écologistes aussi.
18h08, la suite du journal sur Europe 1, François Geffrier, Philippe Vandel.
La suite du journal donc François avec ce G7 environnement à Metz.
Des ministres de l'écologie dans un centre de congrès et à l'extérieur, des forces de l'ordre et des militants altermondialistes qui veulent du concret tout de suite. Reportage Hélène Terzian.
Ils ont voulu représenter une scène de crime climatique. D'un côté, des militants grimés en Emmanuel Macron, Donald Trump ou encore Theresa May, les dirigeants des pays du G7. De l'autre, des manifestants qui représentent les citoyens, les animaux, à terre, tués par les substances qui les entourent. Du charbon, du plastique, des déchets nucléaires et électroménagers. Une action symbolique pour dénoncer l'inaction des politiques et des multinationales, explique Isabelle, membre d'Attaque.
Et là-bas, il n'y a que l'argent qui compte. C'est-à-dire au G7, ils ont invité leurs copains, des autres pays aussi. Il n'y a qu'une priorité, c'est générer du profit. C'est une honte. On se demande si ces gens-là sont humains. Je pense qu'ils sont hors sol.
L'occasion aussi, insiste Jean, d'interpeller les dirigeants sur les projets locaux controversés.
Dans le Grand Est, on a l'implantation d'Amazon prochainement aux alentours de Metz, l'implantation de l'usine de Knauf qui va tourner au charbon. Il y a le grand contournement ouest de Strasbourg qui amène déjà une énorme déforestation. Et il y a également la poubelle nucléaire de Bure. Je ne comprends pas que le G7 il soit fait ici dans une région où les projets inutiles et polluants sont tellement monnaie courante.
Des militants lassés des mots et qui demandent des actes. Ce matin, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a ouvert le sommet en déclarant que ce G7 avait l'ambition d'aboutir à des décisions concrètes.
Hélène Terzian à Metz pour Europe 1. Au moins 3 sapeurs-pompiers de Paris en garde à vue après une plainte pour viol. Tard vendredi soir, les militaires qui n'étaient pas en service auraient proposé à 3 femmes de rentrer dans leur caserne du 14e arrondissement de la capitale.
On en vient à cette station d'autoroute dont les prix pour les carburants, vous l'avez dit, sont nettement en dessous de ses voisines.
Oui, c'est sur la 6, au nord de Lyon, une station d'une nouvelle marque, Fouli, F-U-2-L-I, exploitée par le gestionnaire de l'autoroute, l'entreprise APRR. Jean-Luc Boujon est allé faire le plein de témoignages de clients.
On ne reconnaît pas grand-chose quand on entre sur l'aire de Dracé. Il y a bien des pompes à essence, mais la marque Fouli ne nous dit rien. Et la couleur des installations bleu vif ne rappelle aucun pétrolier connu aux automobilistes.
J'étais en train de poser la question, à dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc j'en sais absolument rien.
Eh bien tout ça est normal, car voilà seulement un mois que la station-service a été reprise en direct par le gestionnaire d'autoroute APRR, avec un argument imparable, les prix sont bien inférieurs à ce qui se pratique ailleurs sur autoroute, explique Véronique Talon, responsable clientèle.
C'est un prix qui peut être comparable aux stations à l'extérieur de l'autoroute. C'est environ 10 centimes de moins que la station en amont ou en aval. On prend cet engagement en fait de limiter les intermédiaires. Sur ce site, vous aviez auparavant 2 opérateurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. C'est juste la marge que nous essayons de compresser au maximum.
Et cela plaît évidemment beaucoup aux automobilistes.
Ah oui, c'est plutôt bien, ouais. J'ai vu que c'était moins cher qu'ailleurs, à 51. Et j'avais vu plutôt à 60, voire même à 70 par endroit. C'est rare de le voir à ce prix-là sur autoroute.
C'est très intéressant. Ça paye le casse à midi. Il faut en construire beaucoup plus.
Eh bien justement, c'est prévu. APRR va dans les 5 ans à venir exploiter en direct 15 de ses 100 stations-service. Il est le seul gestionnaire d'autoroute à le faire en France pour l'instant. Tracé, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et c'était le journal de François Geffrier. Merci beaucoup François.
Europe 1, 18h12.
La météo, c'est maintenant avec vous Valérie Darmon. Vous nous conseillez d'être prudent sur la route, si on y était. Beaucoup de vent dans le sud-est pour encore quelques heures.
Tout à fait Philippe, avec jusqu'en fin de nuit des rafales entre 120 et 140 km/h sur les caps les plus exposés du littoral des Bouches-du-Rhône, en particulier sur la région de la Ciotat et sur les caps Corse, notamment au nord du côté de Bastia. Soyez prudents si vous circulez aussi du côté de Montélimar, de Marignane, d'Arles et puis en Provence. Ce vent donc qui a renforcé aussi toute la journée la sensation de froid, de grande fraîcheur. Et demain, Météo France qui annonce encore de petites gelées d'ailleurs sur une large moitié nord. Jusqu'au massif central. Ce matin, nous avons battu des records de froid par endroit. Il fera donc 2 à 5 degrés sur le sud-ouest, 6 à 9 près de la Grande Bleue. Et les maximales, elles sont en légère hausse tout de même, avec 11 à 16 en général, jusqu'à 17 à 20 au sud de la Garonne et sur les régions méditerranéennes. Du côté du ciel, c'est de plus en plus calme évidemment. Au nord de la Seine, jusqu'au bassin parisien, Champagne et Ardennes, les passages nuageux vont défiler, entrecoupés de courtes éclaircies cette fois, et donner juste quelques gouttes sur les Hauts-de-France. De l'Auvergne-Rhône-Alpes aux régions de l'Est, c'est-à-dire justement les Ardennes, l'Alsace, la Lorraine, les grisailles seront nombreuses tout de même demain matin, mais elles vont évoluer vers de très belles éclaircies et ailleurs vous conservez le soleil.
Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure.
Le journal des sports.
Les sports, c'est avec vous Julien Froment, bonsoir.
Bonsoir.
Et on va commencer par du football avec la 35e journée de Ligue 1, direction le stade Louis II.
Oui, Monaco reçoit Saint-Etienne, les Monégasques peuvent faire un grand pas vers le maintien. Les Verts rêvent toujours de la Ligue des Champions, Frédéric Hélion. Ça vient de reprendre cette seconde mi-temps et je crois que pour le moment c'est avantage Monaco.
Exactement Julien, 48 minutes ici de jeu au stade Louis II, donc 1-0 pour l'AS Monaco, un but de Jelson Martins en première période à la 17e minute, un enchaînement sublime, contrôle, frappe, poteau rentrant, Ruffier, le portier stéphanois avait même fait signe des bras que le ballon sortait à côté, c'est ce qu'il pensait, mais finalement il y a bien eu but, les Monégasques qui ont dominé clairement cette première période, et vous le disiez Julien, les Stéphanois qui rêvent d'Europe mais qui pour l'instant passent complètement à côté de leur rencontre, aucune occasion, un système à 5 derrière qui ne marche pas, et d'ailleurs Jean-Luc Gasset a fait un changement dès la mi-temps avec la sortie de Nordin qui a remplacé Amouma. 49 minutes de jeu et donc Monaco mène 1-0 face à l'AS Saint-Etienne.
Merci Fred, avec cet après-midi 3 rencontres, Montpellier doit se contenter du nul contre Amiens, un partout, Dijon écrasé à Nantes 3-0 se rapproche un peu plus de la Ligue 2, enfin match spectaculaire au Stadium, 2 partout entre Toulouse et Rennes, ce soir à 21h, à ne pas manquer le choc entre Lyon et Lille, les Lillois qui rêvent d'une qualification directe pour la Ligue des Champions. Avant match avec Lionel Rousseau et aux commentaires Pascal Auclair et Simon Rubin.
Et oui, ce sera le deuxième contre le troisième. Football toujours en Allemagne, Franck Ribéry et le Bayern de Munich.
Oui.
Il faut dire comme ça et pas de Munich. C'est fini.
Exactement, le Français qui dispute sa 12e saison en Bavière ne prolongera pas son contrat à la fin de l'année. Kaiser Franck, hein, l'empereur Ribéry, 418 matchs, 8 Bundesliga, 5 Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions, a marqué de son empreinte l'histoire du club. C'est l'avis de notre consultant foot allemand, Gernot Rohr.
Ah oui, il a marqué l'histoire du Bayern, indiscutablement, parce que il a été au très haut niveau, en remportant beaucoup, beaucoup de titres, mais aussi parce que il a marqué l'histoire par la sympathie qu'il a suscité, pas seulement au Bayern, hein, en toute l'Allemagne, où on apprécie beaucoup tout ce qu'il a fait pendant toutes ces longues années au Bayern. Il était dans le cœur de ses supporters et ça, ça n'a pas de prix.
Et Franck Ribéry sera honoré par le Bayern à l'occasion d'un jubilé prévu pour 2020.
Rugby maintenant, il y avait un derby pas très loin d'ici, Racing 92 contre Stade Français.
Oui, et il a toujours lieu, c'est à la Défense Arena. Le club des Hauts-de-Seine reçoit en ce moment même son voisin parisien. Et pour le moment, c'est le Stade Français qui mène après l'heure de jeu 24 à 20. Plus tôt dans l'après-midi, Lyon n'a fait qu'une bouchée de l'Union Bordeaux-Bègles. Succès 34 à 10. Le Loup conforte sa troisième place. L'UBB, en revanche, voit les phases finales s'éloigner.
Et puis en sport mécanique, il va falloir attendre encore un peu pour voir un Français vainqueur d'un Grand Prix dans la catégorie Rennes, la MotoGP.
Oui, pourtant, ça avait bien commencé pour Fabio Quartararo, qui avait réalisé la pole position. C'était d'ailleurs le plus jeune pilote de l'histoire à réaliser cette performance, mais il a été trahi par la mécanique de sa Yamaha à mi-course, contraint à l'abandon alors qu'il pointait en deuxième position, pas très loin du vainqueur du jour, l'Espagnol Marc Marquez. Prochain Grand Prix dans deux semaines en France, au circuit Bugatti du Mans. Et puis, un mot de handball, c'est de la Ligue des Champions. Le PSG, qui était mal embarqué après son quart de finale aller, une défaite par 10 buts d'écart contre les Polonais de Kielce, et bien là, Paris est en train de combler son retard, 27 à 19. Encore quelques minutes à jouer dans la rencontre.
Voilà, c'était le Journal des Sports de Julien Froment. On vous retrouve tout à l'heure, on aura le score de Saint-Étienne-Monaco. À suivre sa présence en quatrième position de la liste d'En Marche pour les Européennes, on avait interloqué plus d'un. Pourquoi Jérémy De Serles, agriculteur écolo, ex-patron des jeunes agriculteurs, s'est-il lancé dans l'aventure européenne? Pourquoi la liste d'une majorité qu'on sait contrarier avec l'environnement? A tout de suite sur Europe 1.
Vous êtes avec Philippe Vandel, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1, 18h18, on va parler politique, Philippe.
Question, comment peut-on être à la fois agriculteur, écolo et sur la liste La République En Marche aux élections européennes, concrètement la liste baptisée Renaissance? Réponse tout de suite. Bonsoir Jérémy De Serles.
Bonsoir.
Vous êtes éleveur de bœuf charolais, ancien président du syndicat des jeunes agriculteurs, dont vous avez démissionné pour devenir numéro 4 sur la liste de Nathalie Loiseau. Vous n'avez jamais été encarté de toute votre vie. Tout d'abord, comment vous êtes-vous retrouvé sur cette liste? Qui vous a demandé? Est-ce que c'est le président Macron?
Président Macron directement, non, mais on a échangé avec le ministre sur les élections européennes. Effectivement, il m'a soufflé à l'oreille que ce serait peut-être une bonne idée que d'aller participer à ces élections.
Le ministre, c'est quel ministre?
Le ministre de l'Agriculture, pardon.
Vous n'avez jamais été... Guillaume. Alors, votre présence est évidemment stratégique. Les élections européennes mobilisent peu les Français, à l'exception notable des agriculteurs qui vont massivement voter. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être instrumentalisé, ou pour dire la chose plus doucement, d'être une caution?
Non, parce que les gens et qui me l'ont demandé d'être ici et qui ont aussi accepté que je le sois me connaissent et savent que je n'ai pas ma langue dans ma poche et que je ne me tairai pas et je vais aussi là-bas pour essayer de défendre au mieux la profession agricole et puis l'ensemble des citoyens.
Alors c'est vrai que vous n'avez pas votre langue dans votre poche et vous ne l'aviez pas, vous n'avez pas été avare de critiques contre la politique du président Macron, notamment en faveur de l'écologie. Comment ça se passe maintenant ?
Ben, ça se passe bien parce qu'on se comprend et ça se passait pas mal avant. Les agriculteurs sont les premiers écologistes.
Ah bon?
Oui, ce sont les premiers.
Vous savez, quand les écolos entendent cette phrase, ils bondissent dans leur chaise.
C'est pour ça que je vais continuer de la dire parce que c'est ce qui m'anime. Moi, c'est aussi que les écologistes de comptoir se ramassent un petit peu parce qu'à un moment donné, les agriculteurs ont prouvé qu'ils étaient capables de faire évoluer leurs pratiques, de travailler correctement la terre, et sont encore capables. Sauf que si on continue à leur tirer dessus à boulet rouge, on va avoir du mal à faire changer et à faire évoluer encore nos exploitations agricoles. Donc oui, je me sens écologiste tout simplement parce que je suis agriculteur et que j'aime la terre, j'aime mes animaux.
Parce que vous parlez d'écologiste de comptoir ou non, le syndicat des jeunes agriculteurs, qui est un petit peu le fer de lance de la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire en France, était en conflit quasiment permanent avec les écolos.
Non, je crois.
Non. Alors,
avec les écolos qui sont extrémistes, avec les écolos qui savent que les agriculteurs doivent être leurs alliés, comme Pascal Canfin, par exemple, eh bien, avec ceux-là, ça se passe bien, et ça se passe encore mieux aujourd'hui.
Comment ça se passe avec Pascal Canfin, justement, l'ancien patron du WWF, qui est un écologiste patenté, affirmé?
Eh bien, écologiste patenté, affirmé, qui sait que les agriculteurs sont aussi des alliés ou doivent être des alliés. Et donc, nous travaillons très bien ensemble. Nous avons sorti une tribune il y a 15 jours.
Je l'ai vu.
Où on a réexpliqué justement quelles seront les priorités de notre liste et qu'est-ce qu'on défendra finalement au niveau agricole en Europe.
Marine Le Pen a ironisé sur votre binôme. Elle a dit « c'est la foire-fouille, c'est le en même temps qui fait croire aux gogos qu'on est capable de défendre tout et l'inverse de tout ». Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je lui réponds qu'elle s'occupe déjà de sa liste et puis de savoir ce que elle va défendre demain, parce que pour l'instant, à part mettre en péril encore plus l'agriculture en ne proposant finalement rien, comme ils ont fait tout au long de ce mandat européen où ils ont voté contre tout. Voilà, moi ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je veux mettre en garde les agriculteurs aujourd'hui face à cette montée de l'extrémisme qui ne servira jamais la cause agricole. L'Europe a besoin de l'agriculture, donc elle se donnera aussi les moyens de l'accompagner correctement. Marine Le Pen et son parti ont choisi plutôt de dénoncer tout en Europe et de ne pas s'en servir pour justement sortir l'agriculture des difficultés dans lesquelles elle se trouve. Donc je demande aux agriculteurs de ne pas faire d'erreur.
Je prends un exemple concret sur cette alliance, notamment avec Pascal Canfin, mais quand bien même ce ne serait pas une question de personne. Le gouvernement s'est attaqué à l'usage du glyphosate. Glyphosate pour lequel vous étiez beaucoup moins sévère, vous disiez qu'il fallait prendre son temps.
Oui, et je pense que c'est ce qu'aujourd'hui le gouvernement dit, c'est ce qu'on a redit avec Pascal Canfin, qu'il faut une sortie...
Oui, mais c'est ce que reprochait autrefois Pascal Canfin au gouvernement, qui était de dire qu'il faut prendre son temps.
Eh bien, aujourd'hui, on a, dans notre tribune, c'est bien explicité, où on dit qu'il faut organiser la sortie. Qu'est-ce qui va se passer si on interdit le glyphosate trop vite ? Les agriculteurs français ne pourront plus produire autant qu'avant.
Oui, puisque dans les autres pays, ils vont continuer à l'utiliser avec des rendements meilleurs.
Voilà, mais c'est surtout que nous, on ne pourra plus le produire, on ne pourra plus produire autant qu'avant.
Oui.
Donc, on ne pourra plus mettre sur le marché intérieur nos produits. Mmh. À côté de ça, est-ce que les Français vont diminuer leur consommation d'aliments végétaux ?
Non.
Donc, on ira les chercher ailleurs sans avoir aucune mesure, sans avoir aucune possibilité d'assurer la non-utilisation du glyphosate. Donc ne prenons pas de risques, accompagnons correctement les agriculteurs pour avoir une sortie du glyphosate qui soit honorable pour tout le monde, en cohérence avec les attentes des citoyens.
Alors le JDD a dévoilé, un indiscret du JDD a dévoilé ce matin certaines mesures écolo du programme d'En Marche, pour votre liste Renaissance pour les Européennes. Quelles grandes lignes avez-vous retenues ?
Il y a la volonté de sortir forcément de cette dépendance à certains produits phytopharmaceutiques. Mais quand on dit sortir, c'est voilà, accompagner...
Division par deux des pesticides d'ici 2025. C'est-à-dire dans 6 ans. C'est tenable, c'est réaliste.
Ce sera tenable si nous mettons les moyens dans la recherche, encore une fois, pour accompagner les agriculteurs à en sortir. Faut pas que nous soyons les seuls à en sortir, c'est pour ça que nous demandons ça au niveau européen, pour que justement le PAC qui sera décidé autour de ces questions-là soit assez costaud pour qu'il y ait encore une fois une sortie honorable.
Alors dans le programme organisé. Dans le programme, il y a également la réorientation de la PAC, la politique agricole commune, vers la transition écologique. Concrètement, ça va se passer comment ?
Eh bien, pareil, donc dans la politique agricole commune, nos priorités, c'est à la fois le revenu des agriculteurs, donc qu'on mette tous les moyens en œuvre pour que les agriculteurs regagnent leur vie correctement. Ensuite, une meilleure protection, donc à la fois se protéger des produits qui arrivent d'ailleurs et qui ne seraient pas contraints aux mêmes règles que les nôtres, et puis aussi se protéger les exploitations agricoles face aux différents aléas. Et quand on dit réussir la transition écologique, mettre le paquet là-dessus, c'est faire de l'environnement et de l'écologie une question qu'on réglera avec du pragmatisme. Donc
mais
voilà.
Justement, je vais être pragmatique. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas distribuer autrement les subventions de la PAC ? Il y a un chiffre ahurissant. 20% des agriculteurs touchent 80% des aides. Et c'est souvent des gros propriétaires qui font des gros volumes et pas le petit gars qui fait du local et qui fait du bio.
C'est ce que nous allons demander aussi, pas que le local et le bio. Aujourd'hui, la problématique de la PAC, c'est que c'est une politique publique avec des aides qui sont basées exclusivement basé exclusivement sur les hectares, ouais. sur des hectares, sur de la surface. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la reine d'Angleterre et le prince de Monaco bénéficient d'aides publiques de la politique agricole commune. Est-ce normal ? Non. Donc, avant de savoir s'il faut donner plus aux agriculteurs bio qu'aux autres, il faut déjà arrêter d'en donner à ceux qui ne sont pas agriculteurs et ce sera déjà bien.
Vous êtes éleveur à Chevagny-sur-Guye, je ne sais pas si je prononce bien, petit village de Guye, 70 habitants en Saône-et-Loire, vous êtes quatrième sur la liste, donc il est certain que vous allez être élu député. Et vous avez dit « je suis toujours agriculteur et ça ne changera pas ». Comment vous allez faire les deux métiers en même temps ?
Les deux métiers en même temps, je les ferai grâce à un salarié et voilà une de la main d'œuvre sur mon exploitation qui pourra pallier bien sûr à mes absences.
Dernière petite question, vous avez un compte Twitter, j'ai regardé tout à l'heure, il y avait 39 000 60 followers. Est-ce que vous avez fait le ménage sur votre compte ?
Non.
Parce que vous savez, quand on est tête de liste, votre compte est surveillé et on repasse tout en revue.
Eh bah, ben, il ne doit pas y avoir trop d'erreurs. Voilà, mais c'est pas moi qui l'ai fait, en tout cas, s'il y a eu du ménage, je le fais.
Merci beaucoup, Jérémy Merci. De Serles. Je rappelle que vous êtes éleveur et numéro 4 sur la liste de Nathalie Loiseau pour les Européennes.
Merci. Europe 1.
Les piqûres de testostérone, la réaction des proches, la carrière de comédien pendant cette transition, Océan nous livre les images de son changement de genre, entamé il y a un an et demi dans un documentaire en 10 épisodes sorti aujourd'hui. Il vient nous en parler dans ce studio dans un instant.
Bonne fin de journée avec Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit avec vous Philippe Blondel.
Oui, c'est l'heure du rappel des titres avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Importante rafale de vent dans le sud-est de la France. Une touriste allemande est décédée après avoir été happée par une vague sur une plage de Porto en Corse du Sud. Dans le Var à Toulon, un violent ravagé 3 hectares de broussailles sur le Mont Faron avant d'être contenu par les pompiers. L'inquiétude après la disparition mercredi de 2 touristes français dans le nord du Bénin. Le corps retrouvé dans le parc de la Penjari où ils ont été vus pour la dernière fois est bien celui de leur guide béninois. Sa famille a identifié ses vêtements. Le parc national l'a confirmé à Europe 1. 9 minutes d'hommage aux victimes de la rue d'Aubagne ce matin. Rassemblement silencieux 6 mois jour pour jour après l'effondrement de 2 immeubles à Marseille. 8 personnes étaient mortes dans le drame. Deuxième jour de violence au Proche-Orient entre Israël et Gaza. Des salves de roquettes ont été tirées de part et d'autre. 3 Israéliens et 15 Palestiniens ont été tués en 48 heures. Démontrer l'urgence climatique, une cinquantaine de membres du collectif Alter G7 a mimé une scène de catastrophe naturelle aujourd'hui à Metz. Une action alors que les ministres de l'Environnement sont réunis dans la ville pour promouvoir des actions concrètes et ce à la veille de la publication d'un rapport alarmant sur la biodiversité.
Merci beaucoup Sophie, à tout à l'heure pour votre journal complet à 19h.
Europe 1.
La météo, c'est maintenant avec vous Valérie Darmon. Est-ce qu'il faut s'attendre enfin au retour du beau temps demain ?
Oui, mais pas encore de remontée franche des températures. De nombreux gelées sont encore à déplorer demain matin de la Normandie et Hauts-de-France jusqu'en Alsace, jusque sur la Sologne, le Limousin, le Massif central par exemple et le Massif alpin avec moins 2 à 0 degrés. On attend 1 à 5 degrés ailleurs jusqu'à 10 sur les bords de la Méditerranée. Et puis l'après-midi, il fera tout de même moins frais que ce dimanche, d'autant que le vent va se calmer, avec 12 à 16 degrés de l'Alsace à la Vendée pour le nord de la France et de 15 à 20 dans le sud. Malgré une hausse de 2 degrés par rapport à ce dimanche, nous restons 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison. Du côté du ciel, si vous habitez entre les côtes normandes et les Ardennes, vous passez la journée sous un ciel nuageux et vous risquez de petites averses. Entre la Bretagne, les Charentes, le Massif central, le Nord-Aquitaine, le ciel sera voilé, mais sec. Plus au sud, c'est-à-dire du sud de l'Aquitaine à Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez du soleil. Vous observez un net redoux l'après-midi, après quand même les gelées du matin.
Merci Valérie Darmon. Il est 18h31, nous êtes toujours sur Europe 1 et ce grand journal du soir se poursuit Philippe Blondel avec une rencontre et un document.
Bonsoir Océan.
Bonsoir.
Vous êtes comédien, vous connaissez auparavant sous le nom d'Océane Rosemary. On a vu votre spectacle, La lesbienne invisible. Vous avez également réalisé un film avec Alice Paul, c'était Embrasse-moi. Et les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien car vous faisiez partie de la bande de Michel Drucker dans son émission Faites entrer l'accusé. Et vous étiez une fille à l'époque. Il y a un an. En mai dernier, à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, vous avez annoncé votre changement de genre, vous étiez une fille, vous avez décidé donc de changer de genre, mais pas de sexe. Quelle différence faites-vous ?
En fait, je crois que c'est très important que les gens comprennent que le genre, c'est une construction sociale avant tout. C'est-à-dire que dire qu'il y a des hommes et des femmes et que ça serait lié au sexe biologique, à la biologie, c'est un peu une erreur. Parce que quand vous parlez avec des médecins qui travaillent sur ces questions-là de sexuation, ils vous expliquent qu'il y a beaucoup plus de possibilités que juste homme ou femme. Voilà. C'est assez compliqué finalement de déterminer le sexe, le genre par le sexe. Donc, vous voyez, par exemple, il y a des hommes qui produisent beaucoup d'œstrogène, de progestérone, qui ont des seins, parfois plus que certaines femmes, qui elles produisent beaucoup de testostérone. Il y a des personnes qui naissent intersexes, donc qu'on ne peut pas assigner à la naissance. Donc, en fait, il y a une complexité biologique bien plus grande que ce qu'on pense. Et du coup, en fait, hommes et femmes, c'est des constructions sociales, c'est des catégories dans lesquelles on se range. À partir du moment où on a compris ça, moi, j'ai décidé que la catégorie femme m'allait pas très bien, que c'était pas trop là où j'étais vraiment. Ouais. Je me reconnaissais pas vraiment dans cette catégorie et je me trouvais plus juste dans la catégorie homme. Donc j'ai mis en place plein de choses pour faire cette transition.
Alors, en place plein de choses, vous allez plus loin car aujourd'hui, vous sortez un web documentaire consacré à votre transition de femme vers homme. C'est sur le site France TV/, en 10 épisodes d'une quinzaine de minutes qu'on peut voir gratuitement. Que voulez-vous faire? C'était une série documentaire, c'est également une mise en scène puisque vous êtes comédien. C'était quoi l'idée?
Non, là pour le coup, vraiment, je joue pas du tout. Je montre ma vie assez intime, ma famille, ma mère particulièrement, qu'on voit beaucoup, ouais. Mes amoureuses, les gens que je rencontre, voilà, mes amis. L'idée, c'était un peu d'amener un autre discours sur la transidentité. Parce que les documentaires que j'avais vus jusque-là étaient souvent un peu tristes, montraient souvent des situations de grande souffrance. Et moi, je pense que transitionner, c'est aussi super joyeux et très épanouissant pour nous. Et que finalement, nous, on n'a pas de problème. C'est les gens qui ont un problème avec nous, mais nous, on n'a pas de problème.
Alors, je dois dire, je n'ai pas tout vu, mais j'en ai vu une grande partie. On rit beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été censurées dans tout ce que vous avez tourné? Parce qu'on a l'impression que la caméra est partout.
Ouais, bah, en plus, j'ai fait plein de trucs à l'iPhone, justement, pour garder cette intimité, notamment avec ma mère, pour pas. Voilà. Et donc, c'est vrai que les gens sont très libres et oublient complètement qu'ils sont filmés. Et en fait, de censurer, non, pas vraiment. Après, il y a des trucs que j'aurais pu mettre justement sur des messages horribles que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux et quoi, mais c'était pas très visuel, tu vois, de filmer un écran.
Alors, il y a un épisode titré « S'alléger ». On voit une opération, une mastectomie, c'est-à-dire la disparition de vos seins. Rien n'est flouté. L'opération, on la voit pas, mais on voit vos seins avant, après. Ouais. Pourquoi ce choix de montrer les choses telles qu'elles sont ?
Bah parce qu'en fait, voilà, je voulais juste raconter ce que c'était une première année de transition. Dans mon cas, je parle que pour moi parce qu'il y a des gens qui ne se font pas opérer, qui ne souhaitent pas se faire opérer. C'est très cool. Il y a des gens qui veulent se faire opérer du sexe, d'autres pas. Ça ne regarde qu'eux finalement. Après, moi, je trouvais ça cool de le documenter parce que c'était important pour moi, que c'était une opération qui faisait peur. Et voilà.
Puisque vous en parlez, vous vous faites injecter de la testostérone sous contrôle médical. Ensuite, vous apprenez à vous l'injecter vous-même. Et vous répondez également à cette question que peut-être les auditeurs auditrices qui nous écoutent se posent. Non, vous n'avez pas changé d'attribut sexuel.
Bah, disons que c'est surtout que ça regarde vraiment pas les gens, je trouve. Et bon,
ah bah, après, attendez, moi, j'ai fait le choix. C'est vous qui lancez le
sujet.
J'ai fait le choix
de le dire. Mais non, mais je vous dis ça parce que c'est vrai qu'il y a le problème, c'est que souvent les gens, c'est la première chose qu'ils demandent.
Bien sûr.
Est-ce que tu vas faire
le choix? Je vous aurais jamais posé la question si ce n'était pas dans le
mais
film.
Je le dis juste pour les auditeurs. Si vous rencontrez une personne trans, ne lui parlez pas de ça parce que vous ne demandez pas aux gens. Oh, elle est comment t'habites ou elle est comment t'achètes. Donc il faut respecter. Voilà ce qu'il y a dans la tête des gens. Ça ne regarde qu'eux et peut-être les personnes avec qui ils ont des relations sexuelles. Mais donc voilà. Moi après, je disais que justement change de genre, ça m'est complètement égal et c'est pas mon sexe, voilà. Mais après, ça, bon, encore une fois, il n'y a même pas à en parler, quoi.
Est-ce que votre entourage a été difficile à convaincre? Non pas de votre décision, puisque c'est la vôtre, mais d'être filmé et d'être diffusé. Je pense notamment aux scènes avec votre maman.
Elle a joué le jeu. En fait, je lui ai vite expliqué que je pense que beaucoup de gens passent par elle pour s'identifier parce que plein de gens connaissent pas la transidentité et qu'elle, au départ, elle y connaît rien non plus et qu'elle est plutôt réticente. Et donc, elle a accepté de jouer le jeu, ce qui était très généreux de sa part puisque du coup, elle savait que elle c'était dur pour elle, quoi. Elle agit très mal et elle met vraiment du temps et presque jusqu'à la fin du film, c'est encore un peu dur. Et c'est vrai que du coup, je pense que beaucoup de gens peuvent passer par elle pour comprendre ce qui se passe.
Alors, on vous voit avec une jeune femme qui est votre chérie à l'époque. Elle s'appelle Charlie. Elle est québécoise. J'en sais rien, mais en fait, ça s'entend. L'accent, elle est tatouée, je suis obligé de le préciser parce qu'elle est très féminine, avec des décolletés plongeants, et vous dites ça me fait marrer que les gens nous voient comme un couple hétéro. Pourquoi ça vous fait marrer? Et il faudrait vous voir, ou il faut vous voir comment?
En fait, non, c'est juste qu'il s'avère qu'il nous voit comme un couple hétéro, évidemment, puisque moi, maintenant, les gens qui ne me connaissent pas dans la rue ne se disent pas « tiens, c'était une femme avant ». Mais ce que j'ai trouvé terrible, c'est que quand moi, j'étais femme, et si j'étais avec une fille comme ça, très, très belle, très séduisante, on se faisait tout le temps emmerder, on se faisait tout le temps draguer, les gens ne respectaient pas. Et maintenant qu'ils me perçoivent, moi, comme homme, alors tout d'un coup, quelque part, ils la respectent parce qu'ils me respectent. Mmh. Et c'est très énervant, parce qu'en fait, il faut respecter les femmes, qu'elles soient avec une femme, qu'elles soient toutes seules dans la rue, ou qu'elles soient avec un homme.
Vous vouliez être un homme, régime. Vous avez dit une fois il y a un an dans une autre émission qu'on a fait ensemble, vous vouliez avoir plus de muscles et plus de poils. Pourquoi des muscles?
Bah je sais pas, j'aime bien les muscles. Moi c'est mon... je reste assez raisonnable quand même, mais ça me plaisait.
Non mais vous êtes baraqué quand même. Ouais, je suis assez frappé. Je vous revois, vous êtes baraqué.
C'est vrai. Bah c'est c'était un goût personnel, mais ça voilà encore une fois.
Non mais est-ce que ça change quelque chose dans votre vision du monde et votre vision d'être?
Ça change, oui, je découvre aussi justement ce que c'est qu'être perçu comme un homme, et parfois c'est très choquant, puisqu'on voit que tout d'un coup les mecs par exemple sont vachement plus sympas avec moi, et ce qu'ils me prennent pour leurs potes, et moi je suis choqué quoi.
Et on vous tape dans le dos. Prochain projet, vous avez 10 secondes pour me dire, ça sera quoi? Un spectacle, un film, autre chose?
Un spectacle, un film, tout. Je continue à tout faire.
Merci beaucoup Océan, je le rappelle, vous êtes auteur du web documentaire qui porte votre nom, s'appelle Océan, et pour le voir, c'est gratuit, c'est sur France TV.
/.
Merci beaucoup.
Europe 1.
À suivre, c'est le monsieur sans science de la chaîne M6 depuis 28 ans. Et demain soir, il met son savoir au service de notre régime. Maigrir sans se priver, c'est possible. C'est le thème d'un E égale M6 spécial en prime time. Mac Lesguy avec nous dans un instant. Sans oublier, évidemment, la chronique média de Renaud Revel et la fronde des sociétés de production.
18h39, on parle médias sur Europe 1 et avec vous Philippe Andel.
Bonsoir Mac Lesguy.
Bonsoir Philippe.
Ça fait plus de 20 ans que vous vulgarisez la science à la télévision. Vous avez créé en 1991 l'émission E égale M6 que vous présentez toujours. C'est d'ailleurs la plus grande longévité pour une émission scientifique à la télé. Mais il y a également des spéciales, ça veut dire que ça marche bien. Et notamment une spéciale demain à 21h. Ça s'appelle « Pourquoi je grossis, comment je maigris ?» Racontez l'idée.
Alors l'idée est très simple, elle vient en fait d'une rencontre que j'ai faite dans le cadre de E égale M6 avec une médecin nutritionniste, ancienne urgentiste, Alexandra Dalu, qui m'a expliqué que bien souvent aujourd'hui, on se contente d'aller chercher les causes du surpoids et de l'obésité dans notre assiette, et on se dit en corrigeant le contenu de l'assiette, on va pouvoir les corriger définitivement. Alors qu'en fait, la médecine et la science moderne nous expliquent qu'aujourd'hui, et c'est bien ce qu'elle nous dit, qu'il faut prendre en compte l'ensemble des facteurs qui ont conduit à cette prise de poids, les corriger pour parvenir à un amaigrissement et à un amincissement durable.
Alors, il y a eu des dizaines d'émissions sur les régimes déjà. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas déjà?
Alors, ce que j'ai appris, c'est que vraiment, il faut regarder au-delà de l'assiette pour comprendre pourquoi on grossit et comment on peut maigrir durablement. Savez-vous, par exemple, Philippe, qu'un mauvais sommeil, que le stress peuvent vous faire... et non pas peuvent, vous font grossir.
Ah, vous attendez,
poussent vers les aliments gras et sucrés.
Je vais être franc avec vous. Le sommeil, j'ignorais, je l'ai découvert, mais le stress, je m'en doutais. Les gens qui sont stressés et qui mangent des cacahuètes et des chocolats pour compenser, je me doute que ça fait grossir.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? En général, les nutritionnistes ne vous disent pas « vous allez faire de la sophrologie, vous allez faire du yoga, vous essayez de vous mélanger du temps pour vous-même, ou faire du sport, parce que le sport est un antistress naturel ». On le sait que l'activité physique, effectivement, ça concourt effectivement à nous faire mincir, ça modifie notre silhouette. Mais vous avez aussi des déséquilibres hormonaux. Beaucoup de gens souffrent de déséquilibres hormonaux sans le savoir, ne consultent pas pour le savoir, alors que ça peut se corriger par des traitements hormonaux qui sont très simples. Et dans beaucoup de cas, ça vous évite les syndromes métaboliques, c'est un petit peu l'antichambre du diabète de type 2, et vous allez maigrir grâce à ces compléments alimentaires ou à ces traitements hormonaux. En complément, bien sûr, d'une activité sportive et d'un rééquilibrage alimentaire. Autrement dit, il faut regarder au-delà de l'assiette toutes les causes qui ont pu conduire à notre surpoids pour les corriger une par une. Et là, on maigrit durablement.
Alors, vous parlez aussi du microbiote. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi?
Alors, le microbiote, c'est ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale. Ce sont les dizaines de milliards de bactéries, de champignons et de virus qui vivent naturellement dans notre intestin, ou nous aident à digérer, et ils envoient des messages à notre deuxième cerveau, qui vous le savez est situé dans l'intestin, qui envoie lui-même des messages au premier cerveau pour nous dire « attention, là il faut manger plutôt gras ou sucré, ou là au contraire il nous faut des fibres, c'est-à-dire des fruits et légumes ».
Alors il y a une bonne nouvelle, c'est que même si on bouffe que des pizzas ou du sauciflard, en seulement 15 jours, à dessein j'emploie ces mots, en 15 jours on peut booster son microbiote.
Alors oui, à condition effectivement de lui donner les aliments qu'il préfère. Et le microbiote, c'est pas compliqué.
Non, mais j'ai pris dans l'émission que ça prenait que 15 jours. Je pensais que ça prenait 2 ans.
Non, non, pas du tout. Parce que le microbiote, ça se corrige très très vite. Vous lui donnez ce qu'il aime manger, à savoir des acides oméga-3. Vous lui donnez des fibres. Les fibres, nous, on ne les digère pas. Mais le microbiote, il se jette dessus goulûment parce qu'il adore ça. Vous prenez même des probiotiques. Vous buvez du lait fermenté. Vous prenez des yaourts, des produits laitiers. Et vous pouvez très facilement, en 15 jours, rebooster votre microbiote. Mais par contre, si vous ne mangez que gras et sucré avec peu de fibres, vous avez un microbiote de mauvaise qualité et vous avez un cercle vicieux qui s'instaure dans votre intestin avec ce microbiote déséquilibré qui vous pousse à manger de plus en plus mal.
Comment avez-vous sélectionné les 3 témoins?
Alors comme toujours, on a fait un casting. Dans ce casting, on récupère des dizaines de gens qui ont des kilos à perdre, qui ont envie de les perdre sous contrôle médical. Et après, on a voulu avoir une complémentarité. C'est pour ça qu'on a un témoin qui est obèse, un autre qui est en surpoids. La troisième n'était pas en surpoids, mais elle avait pris 10 kilos en 2 ans. Elle s'est dit, il est temps de réagir, peut-être pas pour retrouver même ligne, mais au moins pour arrêter de grossir comme ça année après année. Ouais. Et voilà, une fois qu'on s'est dit, tiens, qu'on avait traité l'ensemble des problématiques de poids, on pouvait partir sur ces trois témoins.
Mais là, vous avez quand même pris des cas extrêmes. Amandine qui a pris 10 kilos le matin, elle mange des tartines avec du beurre, de la crème de marron, le soir elle se fait une raclette. C'est pas étonnant qu'elle grossisse. Et le deuxième témoin, le garçon, alors le gars, il mange rien pendant 24 heures. Ce qui est d'ailleurs très mauvais pour la santé, comme chacun sait. Du coup, il va au fast-food, tout le monde sait que c'est mauvais. En plus, il demande qu'on lui retire la salade verte, les tomates, les oignons, donc les légumes, tout ce qu'il faut pas faire. En plus, il prend un coca, même pas light. Tout le monde sait que c'est mauvais. Et en plus, il mange ça en 10 minutes. Tout ce qu'il faut pas faire, vous avez choisi, pardon de vous le dire, des caricatures.
Alors, je vais vous dire, et ça c'est amusant que vous fassiez cette réflexion, parce que
il fait pas de sport, j'ai oublié de le dire, il fait pas de sport.
Il fait de sport. On a fait des interviews, beaucoup sur leur état de santé, sur les raisons de leur prise de poids, et ensuite on s'est dit, bon voilà, ce sont effectivement des bons, entre guillemets, des bons candidats à cette expérience, mais on ne les avait pas encore filmés. Évidemment, une fois qu'on les a choisis, on est tous d'accord, on dit voilà, on va les suivre pendant 3 mois, est-ce que vous êtes prêts, etc. Ouais. On fait des examens, etc. Et ensuite seulement, on envoie nos journalistes sur le terrain pour aller filmer une journée de ce qu'ils mangent, de comment ils vivent. Ils reviennent avec les rushs, on regarde et on se dit mais c'est hallucinant. On ne les a pas du tout choisis pour ça. Mais leur comportement est révélateur et on comprend effectivement que stress, manque d'activité physique ou alimentation ultra déséquilibrée, on n'a rien sans rien, voilà les causes de leur prise de poids.
Comment marchent les audiences ?
Alors, les audiences de Égal M6 marchent très bien. Cette année, on est à 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Je crois que c'est notre meilleure saison depuis...
Depuis 12 ans, je peux vous le dire.
Depuis 12 ans, voilà, vous connaissez mieux.
Je vous le dis. Ma question était la suivante. Quel public visez-vous ?
Le public le plus large, c'est une émission qui s'adresse aussi bien aux personnes qui ont envie de perdre du poids, qui vont trouver plein de conseils, qu'aux personnes qui veulent juste garder la ligne. Je crois qu'on est tous dans ce cas-là, parce qu'on y trouve plein de conseils de bonne vie, de bon sens, pour garder la ligne et surtout être en bonne santé.
Je veux dire pourquoi je vous pose cette question, parce qu'en musique de fond, il y a Desperate Housewives. Et je me suis dit, tiens, leur public, c'est les mères de famille désespérées.
Désespéré, sûrement pas.
Bah, désespéré, l'émission... c'est désespéré.
Effectivement, mais l'émission, c'est vrai, mais l'émission est positive. On donne des conseils de bon sens. On montre qu'il y a une solution à tout et surtout que la science a vraiment des réponses à apporter à cette problématique du poids et du surpoids.
Vous avez une formation d'ingénieur. Est-il vrai que vous n'écrivez jamais rien sur du papier et que vous n'utilisez jamais de stylo, sauf, ai-je lu, pour signer les contrats ?
Oui, c'est vrai. J'ai mon ordinateur qui me suit partout. Voilà. D'accord. Alors, c'est pas un modèle, hein, mais j'essaie de faire le bureau sans papier.
Question dans la question. Est-ce que vous avez signé votre contrat pour l'année prochaine pour M6 ?
C'est en cours. Je pense que c'est en bonne voie.
Vous avez une formation scientifique. Vous avez été attaqué en diffamation avec Géraldine Vosner et Patrick Cohen de la Maison Ici à la suite d'un reportage d'Envoyé spécial consacré au glyphosate dès le 17 janvier. Vous avez mis en cause un témoin. Vous disiez dans le tweet « Comment s'étonner quand cette émission a été préparée avec un fraudeur ?» Je ne cite pas son nom pour ne pas avoir un procès moi-même. Où en est cette histoire ? Avez-vous reçu l'assignation ?
Je n'ai pas reçu l'assignation. J'ai corrigé mon tweet d'ailleurs parce qu'il paraît que fraudeur prêtait à confusion. Donc je l'ai traité, je crois, de trompeur et manipulateur.
Ça fait trompeur, tricheur, manipulateur.
Voilà, ça fait référence à une étude qu'il a publiée en 2012 en disant que les OGM étaient des poisons, ce qui est évidemment totalement faux. Cette étude a été démentie depuis. Et mon intime conviction est qu'il a publié cette fausse étude, dans le but effectivement d'induire le public en erreur. C'est pour ça que je l'appelle trompeur et manipulateur. Aucune nouvelle, il a préféré évidemment prévoir faire sa campagne de presse avant de nous prévenir individuellement. On va attendre sereinement les convocations s'il y en a. Voilà, ça ne m'empêche pas de dormir du tout.
Merci beaucoup Mac Lesguy. Je rappelle demain à 21h sur M6, ça s'appelle « Pourquoi je grossis ?»« Comment je maigris ?» Merci d'avoir été ici avec nous sur Europe 1.
C'était un plaisir.
18h46, on reste dans les médias, Philippe Vandel.
La chronique média de Renaud Revel. Bonsoir Renaud.
Bonsoir Philippe.
Alors, les dirigeants des 4 premières sociétés de production et de reportage d'infos et de documentaires en France, dont Bernard de la Villardière et Tony Comiti, ont adressé le 15 avril, il y a 2 semaines, un courrier au ministre de la Culture, Franck Riester, courrier dans lequel il tire la sonnette d'alarme.
Oui, en effet, Philippe, l'arrêt par le Centre National du Cinéma des subventions accordées jusqu'ici à des sociétés de production qui alimentent semaine après semaine des émissions comme Capital, Zone Interdite, Enquête Exclusive sur M6, Les Docs du Dimanche, Le Monde en Face sur France 5 ou encore Infrarouge sur France 2 et Théma sur Arte ou encore, j'en termine, Reportage sur TF1. Bref, toute une liste, la liste extrêmement longue. Toutes ces sociétés de production vont se voir couper les vivres. En effet, sans ces aides vitales pour ces boîtes, toutes ces émissions risquent tout simplement de se retrouver non seulement en panne sèche, mais leur producteur en faillite. Car jusqu'ici, cette banque du cinéma et de l'audiovisuel, qui est le CNC, soutenait massivement un secteur aujourd'hui en crise. Avant que le robinet ne se ferme, le CNC versait par exemple 50 000 euros pour une zone interdite, 37 000 euros pour un numéro de capital, 32 000 euros pour une édition d'enquête exclusive ou encore 40 000 euros pour la production d'un doc du dimanche sur France 5.
À quoi servent ces sommes ?
Ces sommes permettaient non seulement d'amortir les coûts de production de ces reportages, mais également d'équilibrer les comptes fragiles de leurs producteurs. C'est ainsi qu'une société de production comme Palace TV, signataire de cette lettre, a perdu dernièrement 230 000 euros après qu'elle ait réalisé pour le groupe M6 4 zones interdites, ainsi qu'un numéro d'enquête exclusive, sans qu'elle ait touché le moindre euro de subvention.
Mais, si j'ai bien compris, Renaud, il n'y a pas que les producteurs qui s'indignent, semble-t-il.
En effet, les chaînes elles-mêmes ruent dans les brancards. En raison des efforts financiers qu'elles consentent chaque année en contrepartie de ces aides en versant des sommes importantes au CNC, 70 millions d'euros pour TF1, 50 millions d'euros pour M6, par exemple, ce qui n'est pas neutre.
Et quelles sont les conséquences ?
Elles sont importantes. Un risque d'asphyxie pour tout un secteur qui comptait jusqu'ici une quinzaine de sociétés. Il en reste aujourd'hui 6. 5 agences ont même dû mettre la clé sous la porte depuis le début de l'année, tandis que 4 autres ont prudemment rejoint de grands groupes audiovisuels. Parmi elles, l'agence Kappa, rachetée par TF1, et KM, reprise par le groupe Canal+. Dans le courrier qu'ils ont adressé à Frank Reister, leurs 4 signataires s'inquiètent de dépôts de bilan à venir et en cascade, ainsi qu'une casse sociale importante puisque ce secteur de la production fait vivre à lui seul plusieurs centaines d'intermittents du spectacle, ainsi qu'une armée de journalistes et de reporters d'images. Bien, la balle est désormais dans le camp du ministre de la Culture qui devrait recevoir prochainement les auteurs d'une lettre en forme de signal d'alarme.
Merci beaucoup, Renaud Revel.
Merci.
À la semaine prochaine. Dans un instant, Tout roule, la chronique auto de Pierre de Villeneuve. Il a eu la chance de courir la dernière étape du Tour auto de Deauville. Il a également eu la chance de ne pas avoir d'accident à la vitesse où il roule.
À suivre votre chronique auto, donc avec Philippe Vandel et Pierre de Villeneuve, et pour la musique, Jane, un titre inédit sur le thème du succès qui ne figure pas sur son dernier album Soldier. Voici donc Gloria, le nouveau Jane sur Europe 1.
Is gold, but you won't have my soul. I keep my freedom deep into my bones. I keep my freedom as it was my home. But glitter never lasts. Gloria, Gloria, I am my Sonia. Gloria, Gloria, I am my Sonia. Oh, Gloria, everybody wants ya. Success is bold, but music is old. Oh, Gloria, I had dreams about ya. Yes, success is gold. Yourself, I'm watching your back. Gloria, Gloria, I am my Sonia. Gloria, Gloria, I am my Sonia. Gloria.
Le nouveau Jane sur Europe 1, ça s'appelle Gloria. Jane, actuellement en tournée jusqu'en 2020. Vous êtes peut-être sur la route, vous nous écoutez. C'est Europe 1, restez bien avec nous. C'est l'heure de Tout roule avec Philippe Vandel.
Oui, je vais baisser un peu l'autoradio pour dire que c'est la chronique auto qui arrive maintenant. C'est Tout roule avec Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors vous rentrez tout juste de Deauville où s'est terminé le Tour Auto 2019. Tour dont vous avez couru la dernière étape.
Exactement, avec Optique 2000 sur une Alpha Spider de 1982 avec ma copilote Sandrine Ledoux. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le Tour Auto depuis 1992, c'est un énorme magasin de jouets. C'est 250 voitures anciennes, toutes de compétition, qui sillonnent la France pendant 5 jours. Dans cette période de voiture bashing, c'est l'une des rares odes à l'automobile. Sa beauté, sa puissance, la complexité de sa mécanique, la prouesse des ingénieurs qui la conçoivent, les centaines de millions d'ouvriers qui la construisent tous les jours dans le monde, et le sentiment de liberté qu'elle a produit pendant un siècle. Liberté aujourd'hui contrainte par diverses idéologies politiques, environnementales, extrémistes. Je m'égare, ah ouais, c'est pas
là,
la question.
C'est l'édito, là.
Ce n'est pas la question, j'ai en effet goûté,
les
Philippe,
faits, rien que les faits,
à cette sensation unique de pouvoir propulser une voiture de cinéma à travers les routes de la campagne tourangelle, sartoise puis normande, se tirer la bourre avec de vrais pilotes amateurs qui conduisent des bêtes de course, des deux Tommaso Pantera, wow, des Porsche 911 de rallye, des BMW M1 et 30 CSL de compétition, des raretés comme des Fraser Nash, des Joette, des Sunbeam Alpine, des Sunbeam Talbot, et je vous fournis un petit extrait embarqué. Et nous sommes toujours à bord de l'Alpha Spider 2000 avec Sandrine. Tout va bien Sandrine ?
Très bien, merci Pierre.
Alors là on est où ? On va où ?
Alors là on sort d'Alençon et on se dirige vers Carouge.
Carouge, attention, il y a une voiture qui me dépasse. C'est une Porsche 356 oula, avec des plaques californiennes. Un Spider 356, ça c'est très 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 rare. Alors ce qu'on entend aussi dans l'habitacle, ce sont les bruits de la capote. Pas forcément tout à fait hermétique dans cette voiture de 1982. Et on est voilà, en route pour Deauville, sous un soleil de plus en plus perçant. Ah, encore une voiture qui nous dépasse, une Jaguar XK 140.
Vous êtes à quelle vitesse, Pierre ?
Je peux pas vous le dire. Ah. Voilà donc 430 km au volant de cette Alpha Spider 2000 qui sans doute a un peu souffert avec moi. Il y avait au moins une bougie en moins à mon arrivée, sachant qu'il y a eu des abandons de concurrents comme chaque année malheureusement.
Alors qui sont les fous furieux qui s'inscrivent ?
Des amoureux de l'automobile, ceux qui n'assouvissent leur plaisir qu'en compétition. Il y a des compètes de tous les sports. Il y a un défi à relever et puis il y a un budget aussi. C'est à peu près 10 000 euros pour un équipage de deux personnes, pilote copilote sur 5 jours avec les hôtels, tous les repas, etc. Il y a un staff, il y a une assistance sur la route. Il y avait des camionnettes tout le long du parcours. J'ai vu notamment une Jaguar MK2 en train d'être secourue. C'est du temps, c'est de l'argent. Ce sont des chefs d'entreprise. Ce sont des chefs étoilés comme Michel Rostand. C'est l'ancien pilote Jean-Claude Bassot qui est spécialiste BMW. Bref, il y a eu également Dominique Chapat de M6, Miss France qui était invitée également à concourir sur l'équipage Peugeot.
Et il y a des catégories ?
Alors, il y a deux principalement. Il y a la compétition. Là, il s'agit d'arriver le premier en cours, donc avec des spéciales. Et on fait même des tours de circuit comme ici sur le circuit du Mans.
Voilà, la fin du premier tour déjà pour le jeu de Le Mans. Vous l'avez dit, on attendait une domination de Seth Morgan, un plus 4 super sport, la numéro 175, regardez la bagarre pour la deuxième place.
Donc là, c'est vraiment le circuit du Mans. On a l'impression d'être en 1950, 1960, 1970. Ouais. C'est vraiment les voitures de l'époque qui courent sur les circuits. La deuxième catégorie, c'est la régularité. Là, il s'agit de respecter au maximum une vitesse donnée. Par exemple, on se dit, on va rouler à 70 km/h.
Ça a dû vous plaire, ça.
Alors, c'est compliqué parce qu'il faut chronométrer en permanence pour garder la moyenne. Arrêtez de vous foutre de moi. Il y a une catégorie supplémentaire. C'est celle dans laquelle j'étais et qui n'est pas officiellement référencée. Ce sont les optiques classiques. C'est le partenaire Optique 2000 qui fournit des voitures anciennes pour ses invités. Pour la balade, c'est ce que j'ai fait avec mon Alpha Spider. Et vous pouvez me féliciter, Philippe, car avec Sandrine, nous sommes arrivés premiers dans notre catégorie sur les planches de Deauville.
Bravo, je ne peux pas dire mieux. Bravo, Pierre.
Même si on a roulé très, très vite.
Bonsoir, à 70, tiens, je ne vous crois pas du tout. Europe 1. Dans un instant, elle arrive à fond la caisse, le journal de 19h de Sophie Tussaud. A tout de suite sur Europe 1.
Philippe Vandel sur Europe 1. 18h-20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour de l'info et des infos. C'est une affaire emblématique qui dure depuis 6 ans. Même le pape François s'en est mêlé. Le maintien en vie ou pas de Vincent Lambert, qu'un accident de la route en 2008 a plongé dans un état végétatif et qui fait l'objet d'une bataille judiciaire qui déchire sa famille. Deux décisions viennent coup sur coup de tomber et de se contredire. Je recevrai François Lambert, il est le neveu de Vincent Lambert et pour lui, il a repris ses études du droit et il est devenu avocat. Et puis, dans la dernière demi-heure, un débat inédit sur le sommet écolo du G7 à Metz. Que faut-il en attendre? Des résultats concrets ou alors juste une grande messe de plus pour l'affichage écolo? Christophe Castaner en difficulté. Le Parisien a même titré le cas Castaner. Je vous laisse comprendre. Le ministre de l'Intérieur peut-il tenir? Et puis enfin, les États-Unis ont désormais le taux de chômage le plus faible depuis un demi-siècle, depuis 1969. Pourquoi quasiment personne n'en parle ici?
Et vos commentaires sont bien sûr les bienvenus. Réagissez à l'actu sur Twitter avec le hashtag Europe 1. 19h, bonne fin de journée et merci d'être à l'écoute. Le journal Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
9 minutes de silence pour les victimes de la rue d'Aubagne il y a 6 mois. Jour pour jour, les deux immeubles s'effondraient à Marseille. Regain de tension entre Israël et Gaza et la crainte d'un nouveau conflit ouvert. Un début mai au Tison, vague de froid sur le pays, les Français grelottent. Et puis une action concrète pour la biodiversité. Une espèce de vautour sera réintroduite demain dans le Massif central.
Europe 1.
Il y a 6 mois, jour pour jour, l'effondrement de 2 immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille.
Et ce matin, un hommage a été rendu aux 8 personnes décédées dans le drame et aux nombreux autres blessés. Des dizaines de Marseillais se sont rassemblés à 9h05 précise, près du lieu du drame et ont observé 9 minutes de silence. Stéphane Frangy était présent pour Europe 1.
Une journée de recueillement aux abords de cette rue, toujours coupée en deux. Une journée pour se souvenir, ne pas oublier ces 8 victimes, plaide la porte-parole du collectif du 5 novembre, Marie Batou.
Marseille, la France, n'oublie pas les victimes. On continue la mobilisation et on porte la question du logement indigne et puis c'est toujours quand même douloureux.
Cette problématique, pourtant ancienne de l'habitat insalubre au révélateur du drame de la rue d'Aubagne et des familles qui continuent d'être évacuées dans toute la ville, s'émeuvent les militants comme Marc.
Ça touche tellement de monde, 2600 personnes délogées. C'est pas une anecdote là, on est vraiment dans quelque chose d'immense, quoi, de tragique.
Et un petit peu plus de 600 personnes sont toujours hébergées dans des hôtels. Situation précaire, stressante, qui n'est pas sans conséquences, témoignent les acteurs associatifs comme Mohamed.
Les couples qui se sont séparés, les petits dont le niveau scolaire chute d'un coup, et perte de poids, un traumatisme très très profond.
On compte également 1 millier de personnes relogées dans d'autres appartements à titre provisoire ou définitif. Et puis il y a ceux enfin qui sont autorisés à rentrer chez eux, mais ne peuvent se résoudre à regagner un logement proche du périmètre des effondrements. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
Une touriste allemande est décédée en Corse du Sud. Elle a été happée par une vague alors qu'elle se promenait sur la plage de Porto. Des rafales inédites ont balayé le sud-est de la France aujourd'hui. Dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, le vent a soufflé jusqu'à 150 km à l'heure. Ces vents qui ont également attisé les flammes dans le Var. 3 hectares de broussailles sont partis en fumée sur le Mont Faron à Toulon.
Les appels à la démission de Christophe Castaner après la polémique du 1er mai sur la salpêtrière n'ébranlent pas le gouvernement.
Selon Stanislas Guérini, la majorité fait bloc derrière le ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'a assuré le délégué général de la République En Marche, invité ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
On a fait depuis quelques jours le procès médiatique du ministre de l'Intérieur parce qu'il n'avait pas utilisé le bon mot pour qualifier des gens qui s'étaient introduits dans un hôpital. Mais je crois qu'on perd toute mesure. On met un signe égal avec ce mot « attaque à la place d'intrusion » trop rapide. Et puis des gens qui, eux, crient « achevez-le » quand un policier est blessé, qui, eux, crient « suicidez-vous » à des forces de l'ordre. Mais je pense qu'on perd toute la mesure dans le débat politique. Je crois que la majorité fait bloc officiellement quand le ministre de l'Intérieur a été, à mon sens, injustement attaqué ces derniers jours. Le Premier ministre s'est exprimé de façon très claire. Le ministre de l'Intérieur a toute la confiance de la majorité. Je le dis ce matin sans aucune ambiguïté.
Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, invité ce matin d'Europe 1. Aucune certitude concernant le sort des 2 Français portés disparus au Bénin depuis 4 jours, mais des inquiétudes et la thèse de l'enlèvement qui se précise. Le corps retrouvé hier dans le parc de la Penjari, dans le nord du pays, est bien celui de leur guide béninois. Sa famille a identifié ses vêtements, c'est ce qu'a confirmé le parc national à Europe 1. C'est à cet endroit que le groupe a été aperçu pour la dernière fois. Le Quai d'Orsay, pour l'instant, n'a pas réagi.
Le Proche-Orient s'embrase, théâtre d'une véritable flambée de violence.
Depuis 48 heures, une pluie de roquettes entre Gaza et Israël. 3 Israéliens et 16 Palestiniens ont été tués. Des affrontements qui font craindre un nouveau conflit ouvert. Il faut dire, Théo Manval, le Premier ministre israélien a ordonné ce matin à son armée de poursuivre les frappes massives.
Oui, vous parliez d'une pluie de roquettes. Eh bien, elle continue de tomber, ces roquettes, selon les images qui nous parviennent encore il y a quelques minutes et que vous entendez derrière moi. Depuis hier, l'armée israélienne assure qu'au moins 450 roquettes lancées par 2 groupes islamistes depuis Gaza ont touché son territoire et Israël dit avoir frappé en réponse 260 cibles du Hamas notamment, tuant l'un de ses capitaines mais aussi plusieurs civils. 16 Palestiniens sont morts depuis hier selon le ministère gazaoui de la Santé, parmi eux 2 femmes enceintes et un bébé. Cet accès de fièvre a commencé vendredi lorsque 2 Palestiniens sont morts lors d'affrontements près de la frontière israélienne et il fait craindre, vous le disiez, un nouveau conflit alors qu'un cessez-le-feu négocié sous l'égide de l'ONU était entré en vigueur au mois de mars seulement. Vous le disiez, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exigé des frappes massives de la part de son armée. Il a d'ailleurs envoyé des renforts militaires à la frontière. L'Union européenne et les Nations unies renouvellent ce soir leur appel au calme.
Merci Théo Manval. En Algérie, l'annonce est confirmée ce soir. Saïd Bouteflika, le frère du président algérien déchu et 2 anciens patrons du renseignement, ont bien été arrêtés et incarcérés. Les 3 hommes sont poursuivis pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État.
Europe 1.
Il y a 2 semaines, nous étions en t-shirt, en terrasse et aujourd'hui au coin du feu. Gros plan dans un instant sur la vague de froid qui touche la France.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 19h08, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Et on ne va pas y aller par 4 chemins, pour dire les choses crûment, ça caille.
Oui, vous avez entendu dans le journal de 18h, notre correspondant en Savoie, les pieds dans la neige, avec des ressentis à moins 10 degrés à 1500 mètres d'altitude. Et il est vrai que les seins de glace approchent, mais il faut le dire, Jean-Jacques Herry, le thermomètre est relativement bas pour un 5 mai.
Oui, il fait froid, hein, même à Paris, 4 degrés ce matin, ça fait bizarre. Hein. Fallait se frotter les mains pour tenter de se réchauffer, surtout quand on travaille dehors, des potrons comme Alain, fleuriste rencontré sur un marché par Romain Oquet.
Depuis 5h ce matin, donc ça commence à faire. Hein. Puis il faut tenir jusqu'à 14h. Hein. Café, on se couvre, on bouge, on s'équipe.
Vous avez combien de couches de vêtements là ? Vous êtes bien équipé quand même.
Là, j'ai 3-4. Bon, aujourd'hui, ça ira. Ça va ce matin, il y a eu pire. Hein. Il y a pire, quand ça descend en dessous de zéro, c'est pire. Là, aujourd'hui, ça va.
Aujourd'hui, ça va, oui, peut-être à Paris, mais en fait, ça dépend où on se trouve en France. Hein. Allez dire ça à Didier Avenet, il est viticulteur à Mont-Louis, en Touraine. Le froid et le gel, vous le savez, ce sont les ennemis de la vigne. Et pour essayer de les combattre, lui, il a dû rester debout toute la nuit dernière et brûler de la paille.
Ça a été une nuit blanche, si je puis dire. Il y avait bien une cinquantaine de vignerons, oui, de personnes aussi extérieures, de voisins qui sont venus donner un coup de main pour pouvoir enclencher éventuellement les allumages de bottes de paille, pour créer un écran de fumée, pour empêcher la température positive du sol de partir.
Et la nuit prochaine, c'est bien le même scénario qui risque de se reproduire en Touraine et dans le centre de la France, avec la crainte de voir les températures descendre encore plus bas, car visiblement, il n'y aura pas de vent. Bref, nouvelle nuit blanche à prévoir pour les viticulteurs, à scruter les variations de température et gros stress pour la production viticole en perspective.
Merci Jean-Jacques Herry.
Les ministres de l'Environnement du G7 sont réunis à Metz depuis ce matin et pour 2 jours.
Une réunion à la veille de la publication d'un rapport alarmant sur l'état de la nature. Elle vise à promouvoir des actions concrètes et adopter une charte sur la biodiversité. Et des actions concrètes, il y en a qui sont faites au niveau local, comme dans le Massif central, où une espèce de vautour va être réintroduite. La Ligue de protection des oiseaux lâchera demain 3 gypaètes barbus, lors d'Autriche.
Il ne sont que 60 couples de gypaètes barbus aujourd'hui en France. Il en faudrait 100 pour que cette espèce de vautour ne soit plus considérée en danger. Ces oiseaux sont soit dans les Alpes, soit dans les Pyrénées. En les lâchant aussi dans le Massif central, les scientifiques veulent créer un corridor entre ces deux régions pour que les gypaètes barbus se mélangent davantage et que cela pérennise l'espèce. Les gypaètes barbus sont fragilisés aujourd'hui parce qu'ils s'empoisonnent souvent avec des pesticides qui sont pourtant interdits en France. Ils doivent aussi faire face à d'autres menaces, le tir de la part des chasseurs, mais pas uniquement, explique Pascal Orabi de la Ligue de protection des oiseaux.
L'espèce est également victime des infrastructures telles que les réseaux électriques.
où il est susceptible de rentrer en collision avec ses infrastructures et d'être électrocuté. Il est également victime d'intoxication au plomb par la consommation d'animaux qui ont fait l'objet de tirs de chasse.
C'est un travail de longue haleine de sauvegarder ces gypaètes barbus, disent les spécialistes. Il faut lâcher une cinquantaine d'oiseaux pour espérer former seulement un couple qui ne donnera naissance qu'à un poussin à la fois.
L'or d'Autriche.
Et le gypaète barbu qui est l'oiseau préféré de mon écrivain préféré qui était Alexandre Vialat, qui lui vouait un culte. C'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie.
Europe 1, 19h11.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Comment s'annonce le temps cette semaine?
Et je vais commencer par les températures qui ne remontent pas encore. Il faudra attendre 24 heures pour que cela arrive. Et demain matin, les minimales oscilleront entre moins 2 à Montluçon et 10 degrés à Nice. Et les maximales gagneront 2 degrés par rapport à aujourd'hui. C'est encore extrêmement frisqué. Elles oscilleront entre 14 en moyenne au nord et 18 au sud. Remontée des valeurs à partir de mardi, mercredi, pour se stabiliser en fin de semaine pour le week-end prochain. Du côté du ciel, belle amélioration demain sur la moitié sud et toujours sur la façade ouest de la France. Pas de pluie non plus pour la partie nord, sauf peut-être quelques gouttes du côté des Hauts-de-France, mais rien de bien méchant par rapport à ce week-end. Mardi, ciel voilé pour tout le monde et arrivée d'une nouvelle petite perturbation par la façade atlantique entre le sud Bretagne et la région girondine. Et puis pour mercredi, eh bien, cette perturbation va traverser l'ensemble du pays, donc ce sera nuages et pluie pour tout le monde de nouveau, y compris le bassin méditerranéen. Jeudi, on passe tous en ciel de traîne avec un ciel effectivement toujours nuageux mais moins pluvieux. Et la fin de semaine reste tout à fait mitigée, mais les prévisions restent à confirmer.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous, Julien Froment. Rebonsoir Julien.
Rebonsoir.
Football et moi j'attends ce résultat, la 35e journée de Ligue 1, mais quid de Saint-Etienne?
Eh bien ça va vous faire plaisir car c'est fini au Stade Louis II avec Frédéric Hélion, l'excellente opération justement de Saint-Etienne contre Monaco.
Ah oui, effectivement, Julien, l'AS Saint-Etienne est plus que jamais dans la course à la Ligue des Champions, puisque les Stéphanois, avec une victoire 3-2 cet après-midi sur la pelouse de Monaco, eh bien, passent 3e du championnat de Ligue 1 et mettent la pression sur l'Olympique Lyonnais avant le match de ce soir. Alors quand on a vu la première période stéphanoise, on n'aurait pas pu croire à un tel scénario. Ils ont été inexistants pendant 45 minutes et Monaco menait logiquement à la pause grâce à Gelson Martins, un but magnifique à la 17e minute et puis peut-être la sortie de Subasic sur blessure, mais en deuxième période, Monaco n'a plus joué et Saint-Etienne en a profité. Égalisation par un but contre son camp de Balotouré à la 51e. Et puis Rémi Cabella qui donne l'avantage au vert à la 71e. Arnaud Nordin à la 80e qui va sceller la victoire stéphanoise. Et puis en toute fin de rencontre, Vinicius pour Monaco marque dans le temps additionnel. 3-2. Saint-Etienne est donc 3e côté monégasque. Et bien le maintien est toujours loin d'être assuré.
Merci Frédéric. Cet après-midi, Montpellier freiné dans la course à l'Europe par Amiens. Un but partout. Nantes poursuit sa très belle série. Succès 3-0 contre Dijon qui est quasiment relégué en Ligue 2 et puis match nul de partout entre Toulouse et Rennes. Mais ce soir, c'est surtout l'affiche. Lyon 3e qui reçoit Lille. 2e, les Lillois ont 6 points d'avance. Ils sont sans pression. En revanche, du côté de Lyon, pas de question à se poser. Justement, il faut gagner pour reprendre la 3e place à Saint-Etienne et espérer chipper la place de dauphin aux Lillois. L'entraîneur Bruno Genesio.
On a retrouvé une équipe unie autour de l'objectif de fin de saison, capable de faire les choses, capable de réagir dans la difficulté. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Là, on affronte un adversaire direct, une équipe qui est en pleine confiance, en pleine réussite. Donc on va encore monter d'un cran et on va voir si on est complètement guéri. C'est un choc pour le podium. Pour la deuxième place, en cas de victoire, ça relancerait la fin de championnat, même si ils ont 6 points d'avance et un meilleur goal average. Donc ça peut faire 3 points et un meilleur goal average qui, vu leur calendrier, peut les mettre en malgré tout dans une position favorable pour finir deuxième, mais en tous les cas, oui, ça relancerait la deuxième place. Nous, ça nous permettrait d'avancer vers notre objectif. Cette qualification en Champions League à la fin de saison.
Bruno Genesio avec Jean-Luc Boujon, OL LOSC, coup d'envoi à 21h, avant match à suivre dès 20h sur Europe 1 avec Lionel Rousseau. Et puis à l'étranger, pas de Ligue des Champions pour Manchester United, tenu en échec sur la pelouse d'Huddersfield, pourtant bon dernier de Première Ligue, score final 1 partout. Un résultat qui pourrait accélérer le départ du français Paul Pogba, annoncé notamment du côté du Real Madrid d'un certain Zinedine Zidane.
On va passer au rugby, c'est le top 14, la 25e journée et une surprise dans le derby francilien.
Oui, c'était mal engagé pour le Stade français, mais grâce à une superbe prestation collective, eh bien, il s'impose 27-23, victoire ô combien importante, puisque les Parisiens peuvent toujours croire au barrage en top 14, plutôt tôt dans l'après-midi, victoire de Lyon contre l'Union Bègles-Bordeaux, 34 à 10 l'UBB. En revanche, je peux dire quasiment adieu aux phases finales du top 14.
Je souris parce qu'en face, c'était également des Parisiens. Et puis dans le reste de l'actualité sportive, en handball, on a frôlé la remontada.
Oui, le Paris Saint-Germain, qui avait 10 buts à combler en quart de finale retour de la Ligue des Champions, a cru à l'exploit, mais 3 minutes du terme, la star danoise Mikkel Hansen a été exclue pour accumulation de fautes. Paris a ensuite laissé passer sa chance. Score final 35 à 26 pour Paris, mais élimination. Pas de Final Four, année décidément difficile en Coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain. Enfin, en tennis, Lucas Pouille se rassure, victoire du numéro 1 français au tournoi Challenger de Bordeaux. Après une série invraisemblable de défaites, la Pouille avait besoin de se rassurer. Voilà qui est fait. Il disputera demain le premier tour du tournoi de Madrid. Ce sera face au Croate Borna Koric.
Ah, vous l'appelez la Pouille?
Oui, c'est son surnom.
Moi, je vous appelle Julien Froment. C'était le journal des sports de Julien Froment. Merci beaucoup.
Europe 1.
La France, l'Union Européenne, le Vatican et maintenant l'ONU, autant d'entités qui se sont toutes penchées sur le cas complexe de Vincent Lambert, cas qui déchire sa famille depuis de nombreuses années. Parmi ceux qui appellent à ne pas le maintenir en vie, François Lambert, son neveu plus jeune de seulement 4 ans, cette affaire a bouleversé sa vie, il nous racontera.
Il est 19h18, votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec un débat qui secoue la France, mais pas seulement, Philippe Vandel.
C'est une affaire emblématique qui dure depuis 6 ans, même le pape François s'en est mêlé. Faut-il ou non maintenir en vie Vincent Lambert, hospitalisé à Reims, depuis qu'un accident de la route en 2008 l'a plongé dans un état végétatif sans espoir d'amélioration selon les médecins. La bataille judiciaire déchire sa famille. Mardi, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la requête de ses parents contre l'arrêt du Conseil d'État qui avait lui-même validé la semaine dernière la décision d'arrêter les soins. Je vais vous le dire en clair, légalement, plus rien théoriquement ne s'oppose à ce que Vincent Lambert soit débranché, comme on le dit trivialement. Bonsoir François Lambert.
Bonsoir.
Vous êtes l'avocat de votre oncle Vincent Lambert, donc vous êtes son neveu. Et depuis hier, il y a une nouvelle pièce à rajouter au dossier.
Voilà, il y a une demande de la part d'un comité de l'ONU de maintenir en vie Vincent le temps que l'ONU traite une plainte des parents de Vincent, une nouvelle plainte, donc qui fait suite à la Cour européenne des droits de l'homme. Cette plainte, en fait, elle a, au final, le comité de l'ONU va juste demander à la France, enfin, va juste donner son avis, en fait, sur l'affaire Vincent Lambert. Il ne va pas contraindre la France à quoi que ce soit. Donc, c'est une décision, en fait, qui ne vaut pas grand-chose et que la France pourrait ne pas écouter, notamment parce que la Cour européenne des droits de l'homme s'est déjà prononcée et qu'il y a une condition en droit international. C'est compliqué, hein, mais c'est toujours très juridique. C'est que quand une instance internationale s'est déjà prononcée, les autres instances n'ont plus à se prononcer. Donc là, normalement, cette instance n'a pas à se prononcer.
Alors, cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme de mardi, est-ce qu'elle est très importante ou est-ce qu'elle n'est qu'une cinquième ou sixième ou un énième avatar qui va dans le sens de ce que vous recherchez, à savoir que l'on laisse Vincent, si j'ose dire, mourir de sa belle mort?
Alors, je ne peux pas vous dire, c'est le problème de toute cette affaire, c'est qu'il y a toujours des décisions qui tombent. On pense toujours que c'est la fin et puis c'est jamais la fin. Il y a toujours des coups de théâtre. Là, je viens de vous décrire le dernier. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme, elle est très importante dans le sens où la Cour européenne des droits de l'homme elle-même dit bien que les parents de Vincent sont dans une espèce de procédure infinie pour maintenir en vie Vincent et qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Et ce que je vous ai décrit du comité de l'ONU, c'est 3 jours après, 2 jours après même, ils ont dit bah, « nous, on est tombés dans le piège ». Voilà.
Mais c'est un avis consultatif?
C'est un avis consultatif qui ne lie absolument pas la France et d'autant plus que, comme je vous ai dit, la France, si elle ne respecte pas la demande du comité de l'ONU, elle respecte quand même le droit international puisque la Cour européenne des droits de l'homme s'est déjà prononcée.
Existe-t-il, en termes de droit, en France, en Europe ou dans le monde, une instance, une institution qui peut sursoir à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme?
Non, il n'y a rien au-dessus de la Cour européenne des droits de l'homme. Et comme je vous ai dit, le comité dont on parle, il est largement en dessous, il est même en dessous des lois. Lui donner de l'importance, c'est finalement jouer le jeu des parents de Vincent, ça ne sert strictement à rien. Et ce comité est en fait un petit comité que personne ne connaît, qui rend très peu de décisions. Les décisions qu'il rend sont toujours demandées par les mêmes avocats parce que personne ne connaît et qu'il y a des gens qui ont trouvé le filon, en gros. Et c'est un comité qui est en mal de notoriété. Donc pour être connu, il s'est jeté sur l'affaire Vincent Lambert en disant « Tiens, ça va faire des médias, ça va faire parler de nous ». Mais c'est un comité qui ne sert strictement à rien et qui n'a aucune légitimité en fait à traiter de l'affaire Vincent Lambert.
Sauf à faire une manœuvre dilatoire et à faire perdre du temps.
C'est le but des parents de Vincent et c'est malheureusement ce dans quoi, le panneau dans lequel est tombé le comité parce que encore une fois, il est en manque de notoriété, pas pour autre chose.
Concrètement, comment voyez-vous le passage à l'acte de la part des médecins?
Comment je le vois? Je ne sais absolument pas si un jour ça se fera. J'ai vraiment l'impression, comme je vous ai dit, en droit international, le comité de l'ONU n'a pas à faire ce qu'il fait et la France n'a pas à obéir. Le fait qu'elle obéisse, c'est déjà un signal. Ça montre qu'elle-même, elle est embarrassée par cette affaire et qu'elle n'a pas envie d'arrêter les traitements de Vincent.
Je veux dire, le sens de ma question, j'aurais cité un juriste qui s'exprimait jeudi dans Libération. Il s'interrogeait, il disait, vous imaginez une équipe médicale arrêter l'alimentation et l'hydratation de Vincent et lui prescrire une sédation profonde avec les parents dans le couloir et des manifestants à l'entrée de l'hôpital.
C'est évidemment ce qu'il faut imaginer, c'est évidemment ce à quoi il faut se préparer. Et encore une fois, on se bat depuis 6 ans, c'est pas pour rien. Je veux dire, s'il y a 6 ans, on nous avait dit, ah oui, mais c'est à condition qu'il n'y ait pas de manifestants et que les parents soient d'accord. Effectivement, ça ne servait pas à grand-chose, il fallait le dire dès le début.
L'accident, c'était en septembre 2008. À partir de cette date, la médecine a tout fait pour tenter de faire revenir Vincent à la vie, et c'est bien normal. Mais le 10 avril 2013, donc 5 ans plus tard, le CHU engage un protocole de fin de vie en accord avec son épouse Rachel, mais pas les parents. Je vais me faire leur avocat. Plus le temps passe, plus la médecine fait des progrès. On soigne désormais des cancers inguérissables il y a 10 ans. Que répondez-vous à cet argument ? Que plus on attend, plus on a de chances de faire revenir Vincent à la vie.
Il y a 2 arguments, à mon avis, dans votre question. C'est le premier, c'est médicalement. Effectivement, la médecine progresse. Mais pour les patients dans l'état de Vincent, la médecine ne progresse absolument pas. Il n'y a rien à court terme qui peut laisser penser que ça va s'améliorer un jour.
À court terme et à moyen terme ?
Mais à moyen terme, c'est 20 ans, 30 ans. Vincent, il a le temps de mourir 10 fois d'ici là. Vincent, il faut savoir qu'il a une espérance de vie qui est en gros de 15 ans. Après son accident. Et ça fait 10 ans qu'il a, ça fait 11 ans qu'il a eu son accident. La deuxième chose, c'est qu'en fait, plus on attend, plus la décision est totalement juste. Parce qu'on fait passer le message à longueur de temps que c'est pas très grave d'attendre, qu'il n'y a pas d'urgence. Donc pourquoi est-ce que vous voulez le tuer si c'est pas grave de le maintenir en vie ?
La famille est divisée. D'un côté, il y a les parents, le demi-frère et une sœur de Vincent qui s'opposent à l'arrêt des traitements. De l'autre, vous-même, François, 5 frères et sœurs, mais également son épouse Rachel, qui est la tutrice légale. Comment se fait-il que la décision de la tutrice légale ne soit pas entendue ?
Parce qu'en fait, la loi française est faite de telle sorte que c'est exclusivement le médecin qui décide. Le médecin peut décider exactement ce qu'il veut et il n'y a aucun recours possible, sauf s'il décide l'arrêt des traitements. Et à chaque fois qu'un médecin s'en va, il faut tout reprendre depuis le début. C'est comme ça qu'en 2015, on a dû tout reprendre depuis le début, qu'on en est en 2019 exactement au même endroit qu'en 2015.
Alors selon Rachel, son épouse, Vincent Lambert avait clairement indiqué avant son accident qu'il ne souhaitait pas d'acharnement thérapeutique, mais il a laissé aucune consigne écrite, ses paroles contre paroles.
C'est parole contre parole, mais comme beaucoup de sujets, hein, y a beaucoup de sujets en justice où c'est parole contre parole et on s'en offusque pas. Pour la fin de vie, paradoxalement, on s'en offusque. Y a Rachel, il y a un de ses frères, il y a 6 frères et sœurs et son neveu, dont moi, qui disons que ça correspondait à sa personnalité. Moi, je peux juste apporter mon témoignage. Vincent qui me regarde dans les yeux, qui me dit « ma hantise, c'est de finir comme un légume ». Moi, ça me parle. Je pense que voilà.
Alors, Vincent Lambert, c'est votre oncle. Même si vous n'avez que 5 ans d'écart, il a changé de votre vie car au moment de l'accident, vous étiez étudiant au cinéma et pour lui... Vous avez décidé de reprendre des études.
Oui, j'ai repris des études de droit.
Ouais.
Et je ne peux pas dire que j'aurais continué si je m'étais contenté de l'affaire Vincent Lambert, parce qu'au niveau droit, c'est quand même assez catastrophique au niveau juridique, l'affaire Vincent Lambert. Mais le droit me plaît, par contre. Et j'ai continué pour ça.
Vous avez fait des études d'avocat.
Mmh.
Et vous l'êtes, vous le serez bientôt.
Je le serai d'ici quelques mois, normalement.
En 2013, le journal Le Monde révélait que les avocats des parents de Vincent, Maître Triomphe et Maître Payot, appartiennent respectivement à la mouvance Civitas, qui est devenue un parti politique d'extrême droite, et à l'Opus Dei. Leurs frais d'avocat allaient jusqu'à 1 million d'euros, dit Le Monde, en partie financés par la Fondation Jérôme Lejeune, elle-même très investie dans la lutte contre l'avortement. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que ça change, si oui ?
Non, ça ne change rien, parce que c'est en fait le milieu naturel dans lequel évoluent les parents de Vincent, et le demi-frère et la sœur de Vincent qui les soutiennent. Et c'est aussi pour ça que quand vous dites parole contre parole, c'est intéressant parce que les parents de Vincent ne nient pas leurs origines extrêmement, enfin on peut dire intégristes hein, à ce niveau-là. Ils nient pas ces origines-là, ils disent juste que leur combat n'a rien à voir, ce qui est absolument pas crédible. Et chez nous, en revanche, vous avez des gens qui sont favorables à l'euthanasie, d'autres qui ne sont pas favorables, vous avez à peu près toutes les opinions et on est tous d'accord sur Vincent.
Et le fait d'avoir 1 million de budget pour les avocats, qu'est-ce que ça change pour vous ?
C'est pas 1 million de budget, je vais pas vous faire l'historique des procédures. 1 million, c'était au moment où il y avait 3 procédures, là on doit en être à 20. Donc je ne sais pas à quel budget ils en sont maintenant, mais ça dépasse le million et ça dépasse probablement les 5 millions.
Cette affaire dépasse les frontières. En avril 2018, sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pape François a pris position. Il a désiré attirer de nouveau l'attention sur Vincent Lambert. On n'est plus dans un problème thérapeutique, on est dans une perspective religieuse.
Clairement, mais la loi Leonetti, malheureusement, elle est quand même extrêmement religieuse dans sa façon d'être et dans sa façon de penser. Ce qui est intéressant par rapport au pape, c'est qu'il a fait 2 annonces en fait, à très peu de temps d'intervalle, sur des sujets de fin de vie. Le premier en Angleterre, où il a dit qu'il ne faut surtout pas arrêter les traitements de tel patient, parce qu'en Angleterre, vous savez comment ça se passe. Un médecin prend une décision, le tribunal la valide, et ensuite elle est appliquée, peu importe ce que pensent les uns et les autres, et peu importe de savoir si le médecin est parti ou pas. En France, c'est très différent. Le tribunal ne fait rien, le médecin il valide éventuellement une décision du médecin, le médecin décide, mais quand il part, il faut tout reprendre depuis le début. Et le pape, pour la France, il a dit « je demande à ce qu'on prenne le temps, je demande à ce qu'on fasse en sorte que les choses se passent bien ». Et c'est ce qui fait qu'en France, les traitements de Vincent sont toujours pas arrêtés et qu'on est encore dans des procédures 4 ans plus tard, alors qu'en Angleterre, ils ont entendu le pape et 2 jours après, ils ont arrêté les traitements du patient.
peu après l'accident, vous alliez voir Vincent à peu près toutes les semaines. Est-ce que vous retournez régulièrement le voir? La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand?
C'était en janvier, mais honnêtement, j'y vais de moins en moins parce que c'est de plus en plus triste d'y aller. Et puis, on a de plus en plus intégré le fait que de toute façon, il n'était pas là. Et que, moi, j'ai peur de rajouter de la présence pour lui, alors que c'est probablement c'est insupportable d'avoir autant de présence autour de lui.
Et quand vous parlez à ses parents, ça se passe comment?
Je ne parle pas à ses parents, mais beaucoup des frères et sœurs de Vincent ne parlent plus à leurs parents.
Et quels sont vos rapports avec Rachel, son épouse?
Ils sont très bons quand on se voit, par hasard, mais sinon ils sont inexistants parce qu'elle ne parle à peu près plus à personne, y compris avec des gens avec lesquels elle était assez proche. Moi, je peux la contacter par un intermédiaire ou par ses avocats, mais ça se limite à ça.
Comment vous l'expliquez?
Je pense qu'elle a envie de s'isoler, puis qu'elle est assez écœurée par tout ce qui se passe, j'imagine.
Merci beaucoup, François Lambert. Je rappelle que vous êtes l'avocat de votre oncle Vincent Lambert. Ça vous fait sourire?
Bah oui, je ne suis pas vraiment l'avocat de Vincent. Je suis avocat et je me bats pour Vincent, on va dire.
Merci d'avoir été avec nous ici sur Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1.
Et pour être complet, j'ajoute que la ministre de la Santé Agnès Buzyn vient d'affirmer ce dimanche que la France n'était pas tenue de respecter l'avis du comité de l'ONU, l'ONU qui souhaite reporter toute décision d'arrêt des soins pour Vincent Lambert. À suivre notre demi-heure de débat, faut-il attendre quelque chose du G7 environnement? C'est en ce moment à Metz. Christophe Castaner, ça n'a rien à voir, finira-t-il le quinquennat? On en parle avec nos invités dans un instant.
19h30, place à notre grand débat d'actu sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous Philippe Vandel et vos invités. N'hésitez pas à commenter avec le hashtag Europe 1 sur Twitter.
Avec Bruno Jeudy, bonsoir Bruno.
Bonsoir Philippe.
Première fois que vous venez dans ce débat, je m'en réjouis. Vous êtes rédacteur en chef économie et politique de Paris Match. Olivier Pourriol, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe et essayiste. Et Jean-Rémy Baudot, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir.
Faut-il vous présenter? Vous êtes journaliste politique à Europe 1. Aujourd'hui, puis encore demain, se tient à Metz le G7 environnement. Les ministres de l'environnement du G7 et ceux de 8 autres pays invités vont se réunir. Question simple, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Du concret, des lois, des règlements, des interdictions, des créations? Ou alors, est-ce que c'est de la communication pour faire oublier le peu de place accordée à l'écologie dans les conclusions du grand débat national? Bruno Jeudy.
Bien, j'ai envie, une fois n'est pas coutume, de reprendre ce qui a été dit au ministère de la Transition écologique. Du concret, pas de blabla, puisque c'était un peu le fil conducteur du ministère. Je crains que ce soit à l'arrivée du blabla plus que du concret. On verra ce qu'il en sortira des conclusions de ce G7 des ministres de l'écologie. Ces grandes messes, hélas, on est habitué à ce que ce soit, on brasse des concepts, on reste sur des données un peu lointaines et peu concrètes. Espérons que ce soit le contraire. Ces dernières années, on a plutôt, été habitué au contraire.
Et il y a toujours quelqu'un à la tribune pour dire 2025, c'est demain. Olivier Pourriol.
Vous avez entendu le mot qui a le plus répété mon voisin, c'est le mot espoir. Et quand on a affaire à ce genre d'événement, on en est réduit à l'espoir. Et bon, c'est un peu désespérant, mais le climat, on sait que ça concerne tout le monde. Mais comme ça concerne tout le monde, on est censé être tous d'accord, et quand on est censé être tous d'accord, c'est comme s'il n'y avait pas de contenu. Donc on en est réduit à regarder ça comme une messe inutile.
Jean-Rémy Baudot.
Ce qui est très intéressant, on pourrait revenir à ce que vient de dire Olivier, mais juste un mot sur l'organisation quand même, parce qu'il faut prendre le problème dans le bon sens, c'est-à-dire que ce G7 à Biarritz, enfin ce G7 à Metz sur la question de l'environnement, c'est pour préparer le G7 de Biarritz qui sera
en septembre.
Fin août. Donc concrètement, il n'y a pas rien à attendre ce soir, puisqu'il y a des discussions. Là, ce soir, par exemple, il y avait une plénière, une grande table ronde avec, dans la lutte contre le plastique, donc avec autour des grands ministres, ils avaient invité notamment des entreprises, des ONG pour voir qu'est-ce que concrètement les uns et les autres font pour réduire la pinte plastique. Par exemple, j'en discutais tout à l'heure avec un conseiller qui m'expliquait qu'ils essayaient de pousser pour que les fabricants de machines à laver industrielles mettent des filtres pour qu'il y ait moins de microparticules de plastique qui partent dans la nature au moment où on lave nos habits. Ça paraît complètement stupide, mais en fait c'est une source très importante de pollution aux microplastiques, et en fait c'est ce genre de trucs qui sont en train d'être discutés dans cette enceinte.
Mais en même temps, est-ce que c'est pas mondial? Je rebondis sur ce que vous venez de dire, j'ai lu un papier il y a quelques jours qui disait justement que les mers de plastique, les océans de plastique qu'on dénonce, un seulement pour cent vient de l'Europe, et que la grande partie des gens qui émettent le plastique, c'est l'Inde,
c'est pas
la
Chine. Le conseil municipal de Metz qui est en train de se réunir.
Je suis pas complètement idiot, merci.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont G7 avec plein d'autres pays, donc
la Chine et l'Afrique. Mais est-ce que ces gens-là y seront? Parce que ce n'est pas le G7. Les lois les plus restrictives en matière d'écologie, c'est justement chez les pays les plus développés.
C'est pas un G20, mais il y a des pays qui sont invités. Je les ai pas tous là sous la main, mais il y a des pays qui sont invités. Et l'enjeu, c'est ça. Et l'enjeu, c'est aussi de passer par les entreprises. C'est un petit peu l'esprit du One Planet Summit lancé par Macron. L'idée, c'est de se dire, tout le monde doit se mettre d'accord. Parce qu'en fait, en réalité, comme Olivier disait tout à l'heure, ça devrait être une question simple. En fait, ça ne l'est pas. Il y a par ailleurs la question de l'acceptation sociale, de qu'est-ce qu'on est réellement prêt, nous tous, individuellement, prêt à faire pour que ça avance, ces questions d'écologie. Et en fait, la réalité, c'est que personne n'est réellement d'accord.
Ah bah tiens, un bon exemple. Il y a le JDD, je ne sais pas si vous avez vu ça, il a dévoilé ce matin des mesures écolo du programme d'En Marche pour les européennes. Vous les avez lues ? Vous avez suivi ça ? Il y a par exemple une mesure qui va être annoncée, la fin des voitures essence et diesel d'ici 2040. Est-ce que les gens vont être d'accord ?
Bah, évidemment que non, parce qu'on voit que juste en augmentant le prix de l'essence ou du gasoil, on voit ce que ça produit.
Et ça fait les gilets jaunes.
Il suffit de voyager un petit peu dès qu'on sort de France et qu'on va dans des pays où l'accès au carburant est compliqué. On voit bien que ce n'est pas du tout un sujet sur lequel les gens sont d'accord. Donc ça va être très compliqué.
Alors je veux dire, s'il y aura d'autres, il y aura aussi la taxation. Pardon, Bruno.
À Olivier, je pense que ça se fera le diesel. Hulot l'avait annoncé en son temps. Il y avait un plan de réduction puis de suppression.
Là, ce n'est pas que le diesel, c'est le diesel et l'essence. Il n'y aurait plus que de l'électrique et de l'hydrogène.
Ce sera compliqué, mais je pense qu'on va vers ça et qu'on va sans doute vers une grande réduction. Le problème, on l'a vu, c'est dès qu'on veut accélérer les délais. C'est-à-dire que là, on fixe 2040. Dès qu'on veut accélérer les délais, on rentre dans une plus grande contrainte. Et c'est là que ça devient difficile. On l'a vu avec les Gilets jaunes, quand ce gouvernement a voulu accélérer la mise en place et l'augmentation de la taxe carbone. Puisque, en fait, c'est ça le point de départ du mouvement des Gilets jaunes.
Alors, il y a une mesure très intéressante qui serait la taxation du kérosène sur les vols intérieurs au sein de l'Europe. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça pourrait être viable, ça.
On peut rappeler qu'il y a aussi une loi anti-gaspille et une loi sur l'économie circulaire qui va être présentée avant l'été, présentée par le gouvernement, notamment sur les questions de pollution plastique, d'arrêter de produire pour détruire. C'est des choses qui sont un peu dans les tuyaux, mais en fait, paradoxalement, personne n'y croit. Il y a un truc, on est tellement tous globalement pessimistes sur les questions d'écologie, c'est que quasiment personne n'y croit, même quand il se passe des trucs. Regardez par exemple la fermeture des centrales à charbon, les fermetures de Fessenheim, des choses qui sont réellement qui sont en train d'être faites. Et bien personne n'y croit. Il y a un truc, on est un peu tous tétanisés quand même.
Alors l'incrédule en chef est devant vous, c'est moi. Ils annoncent un plan d'investissement de 1000 milliards d'euros d'ici à 2024 pour la transition écologique. Est-ce que c'est réaliste, 1000 milliards d'euros ? On a galéré pour en trouver 10. Non mais pardon de dire les choses, mais...
Non mais dès qu'on brasse des sommes énormes comme ça, tout ça paraît complètement invraisemblable. Et c'est vrai que ça l'est plus ou moins. C'est des espèces d'objectifs qu'ils se fixent pour essayer de placer la barre très haut pour qu'elle descende un peu. Je pense que ça ne dit pas grand-chose aux gens qui nous écoutent.
Alors on va rentrer maintenant dans le concret. Il est place Beauvau, il est ministre de l'Intérieur, il s'appelle Christophe Castaner et on se demande s'il va tenir jusqu'à la fin du quinquennat. A tout de suite.
19h38, la suite de notre grand débat d'actu sur Europe 1 dans votre grand journal du soir. On vous retrouve Philippe Vandel avec vos invités. Bruno Jeudy, rédacteur en chef économie et politique de Paris Match. Olivier Pourriol, écrivain, philosophe, essayiste. Et puis Jean-Rémy Baudot de la rédaction d'Europe 1 du service politique.
Question, Christophe Castaner pose-t-il problème ? Est-ce qu'il est le gardien de l'ordre ou un souci pour l'exécutif ? Il y a deux jours, le journal Le Parisien lui a consacré sa une avec ce titre, le cas Castaner, ce qui peut s'entendre comme le caca Staner. Le gouvernement et le président sont-ils vraiment dans le caca ? Pardon, mais ceux qui ont commencé avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Jeudy.
Non, je crois que pour l'instant, on ne va pas se cacher les choses. Il a encore la confiance de l'exécutif. Édouard Philippe l'a répété et il n'y a pas de signaux qui vont dans un sens contraire du côté de l'Élysée. Donc, Christophe Castaner a la confiance de l'exécutif. Après, Christophe Castaner, oui, il a fait une boulette sur l'affaire de la Salpêtrière.
Pas qu'une.
Ça, c'est... En tout cas, là-dessus, oui. Qui succède à d'autres, c'est vrai. Mais si on regarde les choses, 24, l'avis de ce... L'enfer n'est plus à Matignon, il est à Beauvau.
Ouais, c'est vrai.
Il est à Beauvau, l'enfer.
Bien sûr, et il est même localisé dans le temps, c'est tous les samedis.
C'est tous les samedis. Donc, on aime ou on n'aime pas Castaner, on peut le trouver bon ou mauvais. Le fait est que sa tâche est quand même extrêmement compliquée. En plus, On va dire qu'il a fait ses propres boulettes. Il y a aussi la préfecture de police qui n'a pas été au top sur bien des samedis. Et puis, il y a aussi l'idée qu'Emmanuel Macron, sur le régalien, il n'a pas pris ça tellement au début à bras-le-corps. Donc, on a, j'allais dire, ce gouvernement, cet exécutif, n'est pas très bon en matière de sécurité et de maintien de l'ordre.
Alors, vous dites qu'il a la confiance du président Macron, mais vous, Jean-Rémy Baudeau, je vous ai entendu sur Europe 1 il y a deux jours, vous dites que au sein même de la République En Marche, de l'entourage du président, du Premier ministre, on pense qu'il finira pas le quinquennat.
J'ai aussi cité des propos du président Macron qui disait, qui a dit devant des proches qu'il n'y avait pas de sujet, pas de polémique autour de Castaner. Mais ce qui est vrai, effectivement, c'est qu'Élysée.
Moi, ce qui m'intéresse, parce que vous avez dit, c'est le off.
Je sais bien. En gros, il y en a qui, certains m'ont dit qu'il n'ira pas au bout du quinquennat, que de toute façon, il n'a pas le profil. Ils sont un certain nombre, d'une certaine manière, à lui savonner la planche depuis le début, qu'il n'aurait pas, les épaules, il serait trop amateur. Ça c'est certain. Beaucoup accablent par ailleurs les positions qu'il a pu avoir avant certains samedis à dramatiser la situation systématiquement. On l'a vu avant le 1er mai. La réalité concrète, c'est qu'aussi, effectivement, en regardant le 1er mai, il y a la bourde de la Spitié-Salpêtrière, mais en réalité, le 1er mai se passe relativement bien. Il y a quelques blessés, il n'y a pas de morts. Enfin, on nous annonçait que ça allait être Armageddon. Ça s'est quand même plutôt bien passé.
Il n'y a pas de morts,
encore
heureux.
Bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire.
C'est-à-dire que, faut pas exagérer.
Heureusement
qu'il n'y a pas de mort le 1er mai, vous vous rendez compte de ce que vous dites, Jean-Rémy Baudeau ? C'est grave. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que tout s'est bien passé parce qu'il n'y a pas eu de mort. C'est scandaleux. D'ailleurs, Castaner,
non,
je
ne pense
pas.
On n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire doit-il démissionner ?
Mais est-ce que c'est vraiment le sujet ? Parce que se mettre à la place des gens qui exercent le pouvoir, c'est un jeu de rôle assez satisfaisant, de manière imaginaire. Mais supposons qu'il parte demain. Par qui il sera remplacé ? Probablement par Laurent Nunez, qui fait plus que la moitié du boulot, qui le fait très bien, qui est très apprécié de tout le monde. Ça ne changera pas grand-chose. Vous voyez, c'est comme qu'on pense que quand on va remplacer le chef, ça va changer. Non, il sera remplacé par quelqu'un qui fera à peu près la même chose. Le sujet, ce n'est pas ça du tout. C'est est-ce que c'est normal qu'on considère, vous voyez le mot attaque qui a été prononcé, on pourra revenir dessus. Hein.
Justement, on va en parler.
Voilà. De considérer que ses propres concitoyens sont capables d'attaquer un hôpital, en soi, c'est grave. En soi, c'est grave. Juste d'imaginer que c'est possible, c'est de la folie.
Je vous interromps pour faire entendre quelqu'un qui n'est pas au bistrot, mais qui est en charge des affaires. Il est député, c'est Adrien Quatennens de la France Insoumise. Il est au micro de Mathieu Béliard sur Europe 1. Et jeudi, il a énoncé ce qui est selon lui la technique Castaner et quelles conséquences lui-même en tire.
Ce triptyque permanent face aux mouvements sociaux, où en amont c'est dissuasion, pendant c'est répression et après c'est tentative de diversion, ça suffit. Après cet acte-là, M. Castaner ne peut pas rester et il doit démissionner. Il n'est pas digne de sa fonction, il ne se comporte pas en homme d'État. Dans une démocratie, un ministre de l'Intérieur qui instrumentalise à ce point la presse et fait porter le chapeau à un mouvement social dans ce qu'est la continuité de la tentation, de la diversion que M. Castaner utilise depuis le début du mouvement des Gilets jaunes notamment, ne peut pas rester, ça a le mérite d'être clair.
Sur le fond du reproche, je m'adresse surtout à vous Bruno Jeudy et Jean-Rémy Baudeau. En tant que journaliste, estimez-vous que Christophe Castaner a menti sciemment ?
Mais bien sûr que non. En fait, il a des mauvaises informations. Mais il n'y a pas de volonté de manipuler l'opinion à ce moment-là. Il faudrait bien être un peu stupide pour se dire que par une simple déclaration, il aurait pu contourner les faits et les faits qui se sont révélés quelques heures plus tard. De mon point de vue, ce n'est pas une fake news telle qu'on devrait la donner.
Bruno, puis Olivier Pouriol.
Non, je crois qu'il n'a pas menti, il a surréagi, il a péché sans doute, et c'est lui un de ses problèmes, il n'a pas le mot sûr, ce ministre de l'Intérieur. Absolument, c'est sans doute ce qui fait la grande différence avec certains de ses prédécesseurs, je pense à Bernard Cazeneuve, qui a dû passer une grande partie de son temps au ministère de l'Intérieur en faisant des déclarations à chaud sur des attentats, sur des choses, et il avait le mot sûr. C'est ce qui a fait de lui un ministère de l'Intérieur.
C'est drôle, quelqu'un m'a dit à l'Élysée cette semaine, tout le monde n'est pas Bernard Cazeneuve.
Mais oui, mais Bernard Cazeneuve avait le mot sûr.
Mais pardon, c'est Christian de Béotien.
Castaner n'a pas le mot sûr. Et pour un ministre de l'Intérieur qui réagit à chaud, il a fait le choix d'être toujours en première ligne pour réagir. Il y a d'autres ministres de l'Intérieur qui avaient des porte-paroles, qui avaient des gens qui... Lui, non. Donc c'est l'art de la parole et le poids des mots, si je peux me permettre cette petite allusion au magazine mots,
pour lequel vous travaillez. Voilà. Non, mais juste un mot, pardon de mon ignorance, mais je croyais que tout le monde, et surtout à ce niveau-là dans la République, tous ces gens avaient des conseillers qui leur préparaient des éléments de langage.
A priori, c'est son chef de cabinet qui lui dit « il faut aller voir ce policier qui a été blessé » et a priori, c'est lui qui lui dit « il faut parler ». Sauf qu'effectivement, il aurait dû attendre, aller dans la salle de commandement, faire une conférence de presse, poser et ne pas se laisser, entre guillemets, avoir par des soignants qui lui ont raconté avec beaucoup d'émotion ce qu'ils avaient vécu.
Enfin, se laisser avoir.
Alors,
comme disait Bruno jeudi, on est dans un pays où il y a eu des attentats il n'y a pas longtemps. Il peut y en avoir encore. Utiliser le mot attaque, en soi, c'est un problème. Et surtout, puisqu'il est ministre de l'Intérieur, il sait parfaitement que les techniques qui sont utilisées, des techniques de nassage qui sont devenues systématiques, qui provoquent des mouvements de panique, des mouvements de fuite. Les gens se sont réfugiés dans un hôpital, comme ils se seraient réfugiés dans une église. Et ne pas être conscient de ça quand on est la personne qui manipule ce pouvoir physique. Vous savez, les forces de l'ordre, le philosophe Alain disait, les forces de l'ordre, les hommes en bleu, dit c'est un mur que nous dressons contre nos propres passions. Mais quand dans l'usage des forces de l'ordre, on fait soi-même usage de passion, qu'on utilise des mots qui sont remplis de passion au lieu d'être remplis de prévention et de raison, c'est évidemment une faute professionnelle. Et ce n'est pas juste une faute professionnelle dans l'ordre du métier, c'est dans l'ordre républicain.
Pardon, je vais me faire l'avocat du ministre de l'Intérieur. Vous comparez l'intrusion dans un hôpital et dans une église. D'abord, l'église, les portes sont ouvertes. Là, ils ont réellement, on a vu les images, ils ont escaladé les grilles, ils les ont forcés. Et ensuite, à l'intérieur, il y avait des gens qui étaient en réa et qui étaient entre la vie et la mort.
Mais bien sûr, moi, j'ai un frère médecin, j'ai moi-même été patient en réanimation. On ne souhaite pas avoir des intrusions, mais quand on est entre la vie et la mort, il se trouve qu'à l'extérieur, il y a des gens qui sont dans un autre style de danger. Et les gens qui sont habitués à traiter les situations de vie ou de mort ont vu arriver des gens en détresse aussi.
Olivier, maîtrisez l'art des mots. C'est la différence entre intrusion et attaque. Il s'est trompé.
C'est une faute, puisqu'on parle de mots.
D'accord. Alors, c'est une faute. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que politiquement, pour répondre à votre question, Macron ne peut pas le lâcher maintenant. Parce que, un, ça donnerait, quand on a un quatenin, quand on a Mélenchon qui, toutes les semaines, appelle à la démission de Castaner, on ne peut pas.
On peut pas obéir.
Macron obéir et le donner à ce moment-là.
Impossible.
Et
il par suffit ailleurs, d'attendre le 26 mai.
Par exemple, certains d'ailleurs le disent, bon, il fera partie de la
tout
prochaine
brouette.
Tout
dépend du résultat du 26 mai.
Même pas, vous disiez.
Il
n'y
aura peut-être
disiez.
Pas de remaniement si La République En Marche gagne ses élections européennes, ce qui pour l'instant est loin d'être acquis.
Alors Bruno Jeudi, vous disiez en même temps, le point chaud s'est déplacé de Matignon à Beauvau, siège du ministère de l'Intérieur, parce que tous les samedis, il y a les Gilets jaunes. Sauf que le ministre de l'Intérieur, qui est Castaner, il s'appelle aussi Christophe, il a une charpente charnelle, et il y a eu des bourdes. Le dossier le plus chaud, c'est quand Voici avait révélé une vidéo dans laquelle on le voyait en boîte de nuit, très 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 proche d'une femme qui n'était pas la sienne, qu'enchaînait les shots de vodka. C'était un samedi soir, une journée qui avait été marquée par des incidents avec les gilets jaunes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Là, c'est plus une bourde de vocabulaire.
Oh, mais là, c'est un craquage. Il a le droit à un peu de vie privée. Et c'est vrai que, bon, c'était plus que maladroit évidemment, de faire une petite sortie un samedi soir.
Mais encore une question d'ignorant, comment se fait-il que le ministre de l'Intérieur du 5e pays du monde soit pas avec un officier de sécurité en boîte de nuit ?
Moi, c'est surtout qu'ils se disent pas, ben oui, je vais me retrouver photographié par tous les gens qui sont dans ce restaurant.
On voit les flashs quand même.
Je vais quand même vous raconter un truc. Quand ce truc-là sort, moi je suis dans un avion de la présidence, on est en train de repartir du Kenya, et autour de moi je n'ai que des policiers. Et en fait, on a cette info qui tombe sur les téléphones, et en fait je les montre aux policiers qui sont autour de moi. Et la réaction, c'est une espèce de truc genre, bon bah, voilà quoi.
Là, vous êtes
encore
bien
un problème.
Ils ont dit des trucs plus durs que vous n'avez pas dit ici.
Ouais, mais globalement, il a plutôt le soutien des troupes.
Ça, c'est
quand même quelque chose d'important. Il a plutôt le soutien des troupes.
Olivier Poriol.
Non mais, c'est comme si on faisait le procès d'un homme. Je trouve que c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est que depuis 25 samedi, 25. Il y a un mouvement qui est au fond le rêve de tout mouvement politique, c'est de durer autant. C'est quand même ça qui est extraordinaire. Et là, on a quelque chose où il n'y a pas de leader.
Une journée par semaine.
Une journée par semaine. Non, mais on sait bien, c'est pas facile d'organiser une mobilisation politique à l'échelle d'un pays. Quand vous avez un mouvement sans leader qui arrive 25 semaines d'affilée, voire 26, parce que le 1er mai compte double, parce qu'il y a à la fois le 1er mai plus le samedi. Quand vous arrivez à créer un mouvement qui n'a pas l'air d'avoir de fin, il faut s'interroger sur les raisons de ce mouvement. Il faut dépasser la question des personnes, des ministres de l'Intérieur, etc.
Ça baisse quand même beaucoup, là, maintenant. Hein.
Non, mais ce n'est pas le sujet. Ça fait 20 semaines que tout le monde dit que ça baisse beaucoup. N'importe quel mouvement politique organisé dans les années 80 aurait rêvé d'avoir une capacité de mobilisation de ce type-là.
On va parler de l'Amérique, et on va parler du rire, car je vous rappelle que c'est la journée mondiale du rire. A tout de suite sur Europe 1.
19h50, suite et fin de notre grand débat d'actu sur Europe 1 avec vous, Philippe Vandel, et vos invités, Jean-Rémy Baudeau, journaliste politique à Europe 1, Olivier Pourriol, philosophe essayiste, et puis Bruno Jeudy, rédacteur en chef économie et politique de Paris Match.
3,6%, seulement 3,6%, les États-Unis ont désormais le taux de chômage le plus bas depuis un demi-siècle, depuis 1969. Normalement, ça devrait faire les gros titres partout, ici en France. Pourquoi, ou presque, personne n'en parle, Bruno Jeudy.
Personne n'en parle parce qu'il y a sans doute une situation différente entre ce qu'on peut appeler le chômage aux États-Unis et la situation de la France qui a un chômage de masse, mais a aussi un système social qui a un coût et qui fait aussi que ça rend plus difficile par moment le fait de retrouver du boulot parce que voilà, on a une assurance chômage qui est plutôt plus généreuse que ce qui existe aux États-Unis. Après, il y a une vraie croissance aux États-Unis, il y a une vraie reprise qui est incontestable et qui fait que, effectivement, on en parle moins parce que ça se passe sous Trump et c'est vrai qu'on peut-être qu'on parle pas des choses qui se passent bien sous Trump.
J'imaginais benoîtement que si cet événement avait eu lieu avec Obama à la Maison Blanche, ça ferait les gros titres.
Et ce n'est pas arrivé
partout.
Qu'Obama.
Voilà, Jean-Rémy Baudou.
Mais aussi peut-être parce que la méthode Trump. Alors il y a peut-être certainement un peu d'anti-Trumpisme primaire en France et dans les
chez
médias
les journalistes
français
et dans les rédacteurs.
Voilà, c'est ça. Après, il y a aussi la méthode Trump, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une croissance qui est forte, il y a un chômage au plus bas depuis 1969, il y a des salaires qui progressent, surtout chez ceux qui gagnent le moins, donc c'est effectivement très intéressant.
Mais on reste
sauf que la réalité, c'est que l'impact écologique est dramatique. C'est qu'en gros, c'est open bar. C'est-à-dire que c'est les déficits budgétaires à fond, c'est la fiscalité au plus bas, c'est le protectionnisme,
le gaz de schiste.
Voilà, donc la remise en question des traités internationaux, de la diplomatie. En gros, c'est open bar, c'est le protectionnisme. On fait tout pour que ça se passe bien chez nous, c'est-à-dire aux États-Unis en l'occurrence, et finalement que les autres se démerdent. Donc,
un peu de protectionnisme ici, peut-être que ça aiderait aussi.
Olivier Pourriol.
Tu sais, on voit, c'est une réussite dont on imagine qu'elle va être à court terme parce que tous les autres indicateurs sont quand même au rouge, et notamment l'indicateur politique en termes de représentation, le rapport à la sécurité sociale, la protection sociale. Il ne suffit pas d'avoir un emploi aux États-Unis pour s'en sortir. Il faut en avoir deux, parfois il faut en avoir trois.
Et des mutuelles.
Donc l'idée de plein emploi ne suffit pas. Ce n'est pas le plein emploi.
Hein.
C'est un rapport différent au travail.
Mais 56, le chiffre, c'est que 56% des Américains plébiscitent la politique économique de Trump. Donc ça veut dire que quand même, il est soutenu par la population sur son protectionnisme et sur ce qu'il fait.
Et encore une fois, un chiffre qui ferait rêver ici en France. Alors pour finir, je vous rappelle, je ne sais pas si je l'avais dit, qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rire. Alors j'en profite pour vous demander qui est quoi vous a le plus fait rire récemment, je veux dire pour moi c'est Nathalie Loiseau, qui était la directrice de l'ENA, qui ne se souvenait pas que le GUD était un mouvement d'extrême droite. Voilà, je me suis dit, tiens, quand même.
Elle se souvenait peut-être pas que non plus l'ENA, c'était une école d'administration, alors.
Je sais pas. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus fait rire dans l'actu?
Moi, ce qui m'a fait rire, pour revenir sur Castaner, c'est le moment de contrition où le ministre de l'Intérieur, entouré de son entourage, est revenu sur un problème de définition, disant c'est vrai que c'est trompé de mots. Mais si c'était seulement un problème de mots, ce serait simple. Alors moi, ça m'a fait rire, mais comme un rire jaune, quoi.
Ouais.
Si je peux dire.
Bruno Jeudy.
Alors moi, j'ai essayé de sortir de la politique, parce que j'ai vu un film cette semaine, et il y a un truc qui m'a vraiment fait rire, c'est Laurent Lafitte dans Nous finirons ensemble, avec une scène qui est très très drôle. Il a le syndrome de Quick et il est tout rouge, il a la langue qui sort, enfin on dirait comment il s'appelle, c'est Shrek, là, voilà, ressemble à Shrek.
Donc, Shrek était vert, non?
Moi, ça m'a fait marrer.
D'accord, il est tout rouge, mais il ressemblait à Shrek. Vous me faites mon week-end.
Et moi, c'est le syndrome de l'ancien président de la République. J'ai vu Nicolas Sarkozy en spectacle vendredi matin, entre guillemets en spectacle, il était à Versailles pour
avec
une inauguration.
Alors,
non, il était invité par Valérie Pécresse pour parler d'architecture et de patrimoine. Et on a assisté, et d'ailleurs Bruno était là, on a assisté à plus de 30 minutes de Sarko Show. Il a fait blague sur blague, le public était totalement acquis, mais c'était Gad Elmaleh. C'est-à-dire qu'à un moment, il a interpellé une petite dame au deuxième rang, elle vient de comprendre ma blague, elle rigole, etc. C'était incroyable. Et je ne sais plus, alors, j'ai pas cette info-là, mais le plus drôle, c'est. Enfin, le plus drôle. En fait, c'était incroyable parce qu'il dézinguait à tout va, donc Hollande s'en est pris plein la gueule.
Bon, vous avez encore des souvenirs de Val?
Oui, absolument. Par exemple, il dit la force du Grand Paris, c'est que même mon successeur n'a pas réussi à le détruire. Après, il dit là, il a rien fait. En même temps, quand il faisait quelque chose, etc., etc., la salle rigolait. C'était absolument terrible. Il blaguait sur, je sais pas.
Il a trouvé sa vocation.
Le château de Versailles qui n'aurait jamais été fait s'il y avait eu. Est-ce que le château de Versailles était conforme au plan de local d'urbanisme? Enfin, des choses comme ça. Et en fait, tout le monde, honnêtement, c'était très drôle.
C'était un grand numéro.
C'était un grand numéro.
C'était très très drôle. En plus, c'était gratuit, donc c'était vraiment très drôle.
Oui.
Mais il a balancé des vannes. Il y en avait un peu pour Fillon. Il y en avait un peu pour Wauquiez.
Attendez.
Il y en avait pour tout le monde.
Non, non, non. envie de savoir. Qu'est-ce qu'il a dit sur Fillon? Qu'est-ce qu'il a dit sur Vauquier?
Il a parlé de son premier ministre. Il a bien montré qu'il se souvenait plus de son nom, donc c'était moyennement sympathique. C'était très codé, mais tous ceux, on a bien compris. Après, pour Vauquier, il a dit, on peut finalement, il a fait tout un truc sur les amis en politique, les polémiques, mais il a dit, c'est vrai qu'on peut avoir, les mêmes idées, puis pas forcément être amis. Hein, c'est comme ça dans les familles politiques. Donc bon, là, on a compris que c'était
un moment de vérité,
allusion à Laurent Wauquiez. C'était très très drôle. Alors il y a Valérie Pécresse qui a été épargnée
parce qu'elle était là.
C'était celle qui l'invitait.
Hein, voilà, c'est celle qui l'invitait. Il a fait une petite vanne pour Franck Riester. Il a dit c'est vrai, j'aurais pu te nommer ministre de la Culture. Mais en même temps,
c'était ma faute. C'était peut-être la tienne.
C'était peut-être la tienne aussi. Voilà. Il y a que Frédéric Mitterrand qui est l'excellent ministre de la Culture qui a échappé.
Le mot de la fin. Ouais, c'était quand même. Il a dit que c'était lui qui avait lancé la Philharmonie, ce qui est faux puisque c'est à l'époque de Chirac que cette idée a été lancée et que lui n'a fait que poser la première pierre.
Mais il a annoncé sur Netflix, hein. Huge in France, c'est la suite.
Ouais. Merci beaucoup.
C'était très bon parce qu'en plus, c'était une belle idée, c'était le Grand Paris.
Merci beaucoup, merci à tous. Merci Bruno Jeudy pour cette première, rédac chef économie et politique de Paris Match. Merci Olivier Pourriol, philosophe, essayiste et écrivain, car vous êtes aussi écrivain. Merci Jean-Rémy Baudot qui est venu avec ses notes, journaliste politique à Europe 1. C'était un régal de vous avoir ici à cette table. Et maintenant, on va parler sport sur Europe. On retrouve Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Salut Lionel.
Salut Philippe.
Je suis très content. Tu peux parler de ce que tu veux. Saint-Etienne a remonté la pente.
On en parlait tout à l'heure. On va révéler quand même les secrets, les coulisses d'Europe 1. Qui t'a annoncé la victoire de Saint-Etienne cet après-midi?
On me l'a annoncé juste tout de suite. C'était François Geffrier.
Non, mais avant ce match.
De... Merci. On a eu une discussion. J'ai dit ils vont pas gagner. Et Lionel Rousseau, dans le couloir, m'a dit tu vas voir, ils vont gagner.
On peut arrêter l'émission là.
On n'arrête pas. Nous, on se retrouve samedi prochain à 18h avec Marlène. Toi, on t'écoute. Vous, on vous écoute. Bonne semaine à tous et à toutes. Bonne soirée sur Europe 1.
Bonne semaine, Philippe.